Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
7h, le journal Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une ce matin.
Il a dit vouloir venger la mort de Sherif Shekat, le détenu qui a gravement blessé deux surveillants à la prison de Condé-sur-Sarthe hier, était bien radicalisé. Sa compagne a été tuée dans l'assaut. Carlos Ghosn va-t-il sortir de détention ? Aujourd'hui, le paiement de sa caution semble imminent. Nous rejoindrons notre correspondant à Tokyo. Dans ce journal également, le Paris Saint-Germain à 90 minutes d'une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Et puis le porte-avions Charles de Gaulle qui a repris la mer après un an et demi passé à quai.
Et à 8h15, l'invité politique de la matinale sera le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire.
Europe 1.
Il affirme donc avoir voulu venger la mort du terroriste de Strasbourg. Michael Chiolo, 27 ans, a pu être interpellé par le RAID hier soir après plus de 10 heures passées retranchées avec sa compagne dans l'unité de vie familiale de la prison de Condé-sur-Sarthe. La jeune femme a, elle, été tuée dans l'assaut. Le couple a gravement blessé deux surveillants pénitentiaires à coups de couteau. Une attaque qui semble avoir été savamment préparée. Jean-Jacques Herry.
À 10h moins le quart hier matin, la compagne du détenu appelle les surveillants. Elle se plaint d'un malaise lié à sa grossesse. Les deux fonctionnaires de la pénitentiaire pénètrent alors à l'intérieur du petit appartement où se trouve le couple depuis la veille. C'est là que le piège se referme sur eux, raconte Emmanuel Guimarès, délégué FO pénitentiaire.
C'est elle la première qui a donné le premier coup de couteau avec une lame céramique sur le premier collègue. C'était un geste très très violent, tellement violent que la lame s'est cassée dans son dos. L'autre collègue, lui, a reçu des coups par le détenu. Il s'est retrouvé au sol. C'est le premier collègue qui arrive à relever le premier qui se faisait larder par la compagne du détenu et à le sortir, à refermer la porte de l'unité.
Les deux assaillants semblent très bien préparés. Ils disposent notamment de faux gilets explosifs. Toute l'après-midi, le couple refuse de se rendre, criant à la Ouakbar à plusieurs reprises. Et finalement, juste avant 19h, les hommes du RAID et des forces pénitentiaires décident d'intervenir. Des grenades assourdissantes d'abord, puis des coups de feu pour l'assaut final. Jean-Baptiste Dulion, commandant du RAID.
Ça a été long, complexe, du fait des lieux, du profil des terroristes et bien sûr aussi la suspicion de présence d'explosifs.
Et les explosifs étaient factices. Oui.
Au cours de l'opération, le détenu est légèrement blessé. Sa compagne, elle, est tuée. 10 heures se sont écoulées depuis le premier coup de couteau. Condé-sur-Sarthe, Jean-Jacques Herry, Europe 1.
Et ce détenu qui purge une peine de 30 ans pour avoir tué un octogénaire rescapé des camps de concentration était déjà inscrit au fichier de prévention de la radicalisation. Une radicalisation qu'il semble avoir développée en prison. C'est en tout cas ce que pense son ancien avocat, maître Cédric Demagny, qui garde un tout autre souvenir de lui lorsqu'il l'avait défendu aux assises il y a 5 ans.
En 2014, il pouvait y avoir des signes. Peut-être qu'il y a déjà les germes de la radicalisation avant, etc. Mais on en était en tout cas aux prémices. Le souvenir que j'ai de lui à l'époque, c'est lorsqu'on a des entretiens au parloir de la maison d'arrêt, c'est un garçon courtois, agréable dans les échanges, d'ailleurs cultivé aussi, avec un bon niveau de vocabulaire. Je me souviens, en tout cas, ça m'a marqué, c'est que j'avais 22 ans et personne n'a pris contact avec moi avant l'audience de la cour d'assises pour savoir comment ça allait. Personne n'a fait de demande de permis de visite avec lui à la maison d'arrêt. Donc, il y avait manifestement une rupture familiale totale. Je lui connaissais pas énormément d'amis non plus, donc c'était quelqu'un de très seul.
L'ancien avocat de Michael Chiolo avec Claudia Bertram. Les surveillants pénitentiaires bloquent ce matin les accès à plusieurs prisons, dont Condé-sur-Sarthe ou encore Fleury-Mérogis, pour demander plus de sécurité. Nous serons à Fleury-Mérogis dans une demi-heure.
Direction le Japon à présent, où Carlos Ghosn pourrait lui sortir de détention.
Le paiement des 8 millions d'euros de sa caution semble en effet imminent. Régis Arnaud, vous êtes en direct de Tokyo pour Europe 1. Est-ce que l'ancien patron de Renault peut vraiment s'attendre à sortir aujourd'hui?
Alors la caution a visiblement été acceptée par la justice japonaise et c'était le dernier obstacle à sa sortie de prison. Donc elle devrait avoir lieu dans l'après-midi, c'est-à-dire dans les prochaines heures, au plus tard demain matin. Les médias japonais sont mis en mode comme s'ils allaient annoncer un sinistre ou un désastre. C'est-à-dire que vous avez des manchettes à la télé NHK qui expliquent que la libération est très proche. Donc on peut vraiment s'attendre à une libération dans les prochaines minutes. Ce qui va suivre, c'est qu'il va ensuite rejoindre soit l'ambassade, soit ses nouveaux quartiers, retrouver son épouse qui est sur place et peut-être sa fille Caroline, qu'on a cru apercevoir ce matin en visite à la prison de Kosuge. Il va préparer une conférence de presse, il a hâte de s'exprimer. Quelqu'un qu'il a vu très récemment à la prison le décrit en bonne forme physique, malgré ses 108 jours de détention, prêt à répondre aux accusations dont il est l'objet de la part du procureur de Tokyo, et prêt aussi à répondre aux autres questions sur les autres griefs qui ont été soulevés par la presse japonaise, à l'intervention de l'État français ou japonais dans le dossier Renault-Nissan et à toute autre question qu'on se pose aujourd'hui sur cette affaire hors norme.
Merci beaucoup Régis Arnaud en direct de Tokyo pour Europe 1. Le djihadiste français Jean-Michel Klein serait bel et bien mort dans une frappe de la coalition en Syrie il y a quelques jours. C'est son épouse qui l'affirme, document Europe 1 que vous entendrez dans le journal de 8h. Le frère de Jean-Michel Klein, Fabien, avait lui été tué par une autre frappe le 20 février dernier. Les frères Klein avaient enregistré les messages audio revendiquant les attentats de Paris en novembre 2015.
Europe 1.
Vous restez avec nous dans un instant, la suite du journal avec Théo Manval et le PSG face à Manchester United ce soir, 8e de finale de la Ligue des Champions. A tout de suite sur Europe 1.
Il est 7h07, votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
La suite du journal Théo Manval et le PSG qui espère rejoindre les quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir.
Paris Saint-Germain, Manchester United, coup d'envoi à 21h. Les Parisiens sont bien partis, victoire 2-0 à Old Trafford au match aller. Mais on a tous en tête, évidemment, la remontada du FC Barcelone il y a 2 ans. Alors faut-il craindre un comeback cette fois-ci des Anglais? Ils partent quand même de loin, Julien Froment.
La moitié de l'équipe blessée, la superstar française Paul Pogba suspendue. Pour se qualifier, Manchester United devra réussir une mission impossible, même pour un Tom Cruise en pleine forme. L'entraîneur du club anglais Ole Gunnar Solskjaer veut quand même y croire.
Jamais une mission impossible. Bien sûr, c'est plus difficile, mais il suffit de marquer le premier but et tout peut se passer. Le foot, c'est un jeu technique et tactique, mais c'est aussi mental. PSG-Barcelone, tout le monde se souvient du résultat. Et il y a plein d'autres exemples d'équipes qui sont parvenues à changer des résultats comme le nôtre. Et ça nous donne espoir qu'on peut le faire aussi.
Depuis cette fameuse remontada d'il y a 2 ans, beaucoup de choses ont changé au Paris Saint-Germain, à commencer par l'entraîneur, l'Allemand Thomas Tuchel, qui aborde l'échéance avec sérénité.
On a confiance, mais pas trop de confiance. Nous sommes attentifs, mais nous ne jouons pas avec peur. Toutes les choses peuvent arriver. Nous sommes ici pour montrer une réaction à tous les scénarios qui sont possibles.
Point positif pour le Paris Saint-Germain au Parc. Le club règne en prince, 23 matchs depuis 2012, seulement 2 défaites en Ligue des Champions et une seule fois par 2 buts d'écart. Bref, autant d'arguments pour écarter tout comeback anglais.
Julien Froment, le match est à suivre en intégralité sur Europe 1. Soirée spéciale à partir de 20h.
Et pour parler de ce match, mais aussi du PSG en général, qui de mieux que Alain Roche, notre consultant football, ancien défenseur du PSG et ancien dirigeant du club, il sera notre invité à 7h45.
Une marche blanche cet après-midi à Grenoble en soutien aux familles des 2 jeunes morts samedi dernier après une course-poursuite avec la police. Le cortège doit s'élancer à 16h dans le quartier Mistral. Hier, les parents d'une des victimes ont lancé un appel au calme.
Dans l'actualité également, cette bonne surprise pour les habitants de Saint-Jory en Haute-Garonne.
Le maire a décidé de leur redistribuer l'excédent budgétaire de la commune sous la forme de chèques cadeaux qu'ils peuvent retirer depuis le début de la semaine et utiliser chez les commerçants. Dispositif gagnant-gagnant, Benjamin Péter.
Karine est venue en mairie avec sa carte d'identité et sa taxe d'habitation.
Je viens pour retirer le bon des 50 euros, le bon d'achat.
Donc il vous faut choisir auprès de quel commerçant vous souhaitez utiliser ce bon.
Chez Fred.
Fred, c'est le boucher de Saint-Jory. Après une signature, Karine repart avec 2 bons de 25 euros à dépenser chez lui.
J'y vais de temps en temps, mais selon les finances, on ne peut pas y aller tout le temps non plus. Donc là, ça me permet de prendre un bon lot chez lui, qui me permet de faire quelques semaines. C'est très bien, ça permet d'aller dépenser chez les commerçants qui sont sur Saint-Jory.
Au départ, le maire Thierry Fourcassier avait proposé un chèque carburant, mais l'offre s'est élargie pour qu'elle bénéficie à tous les foyers.
On a mis en place un appel d'offres avec à la fois donc du carburant, de l'alimentaire, mais également des services. Le coiffeur, l'opticien, l'électroménager. On va à la mairie, on choisit ce qu'on souhaite.
Marie-Josée a choisi un bon pour le supermarché. Elle qui gagne moins de 800 euros a pu faire un petit plein de courses.
J'ai pris des produits frais, j'ai pris des conserves, un peu de viande. Quand on est des petites retraites comme moi j'ai, ça me fait beaucoup de bien.
Alors pour éviter l'affluence, la commune a été divisée en plusieurs secteurs et tout le mois de mars, les habitants vont pouvoir récupérer leur chèque valable jusqu'à la fin de l'année. À Saint-Jory, Benjamin Péter, Europe 1.
Et puis c'est un mastodonte qui a repris la mer hier.
Le porte-avions Charles de Gaulle a quitté la rade de Toulon après 1 an et demi passé en révision. Il part pour la Méditerranée et une mission au sein de la coalition internationale contre Daesh, moment toujours historique. Frédéric Michel a pu monter à bord.
Entouré d'une demi-douzaine de bâtiments, des frégates, un ravitailleur, un sous-marin nucléaire d'attaque, le Charles de Gaulle a donc repris la mer avec ses 2000 membres d'équipage, fiers et émus au moment de quitter Toulon.
Heureuse, c'est la première fois pour moi, donc un petit peu d'appréhension, mais ça va.
Ouais, ça fait bizarre, c'est toujours un peu impressionnant de partir loin longtemps.
Un par un, les 20 rafales Barine et l'avion radar Oka, ils se sont posés sur le pont dans un balai millimétré. Le capitaine de frégate Didier.
Un départ en mission, c'est toujours particulier. Il y a tout un tas de procédures et
c'est un peu la magie du départ du porte-avions. Tout le monde est au rendez-vous au moment où il faut, même après un long arrêt technique.
Immobilisé durant 18 mois, le porte-avions dispose désormais des technologies les plus avancées en matière de détection et de renseignement. Marc-Antoine de Saint-Germain commande le Charles de Gaulle.
On est reparti pour 20 ans, donc on a réinvesti. Aujourd'hui, on a un outil qui est beaucoup plus performant, plus moderne et surtout adapté aux nouvelles menaces qu'on rencontre aujourd'hui et qu'on rencontrera demain.
Baptisé Clémenceau, la mission a trois objectifs, renforcer les partenariats, la coopération et assurer un prépositionnement stratégique dans des zones de crise. Dans 10 jours, le porte-avions devrait être au large de la Syrie. Sur le Charles de Gaulle, Frédéric Michel, Europe 1.
Voilà, longue traversée à ce Charles de Gaulle. 1950 personnes à bord de ce porte-avions. Vous vous rendez compte, 1950 personnes sur un seul bateau.
Ça fait beaucoup.
Merci, c'était le journal de Théo Manval.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Il est 7h12, l'heure de retrouver Martin Fenot sur le terrain, Pierre.
Bonjour Martin Fenot.
Bonjour Pierre.
Vous êtes où ce matin ?
Alors, je suis au pied d'une arène où vont s'affronter dans quelques heures deux équipes stars du football. Paris Saint-Germain, Manchester United en huitième de finale de la Ligue des Champions. Vous l'avez compris, je suis donc au Parc des Princes.
Déjà.
Parce qu'en attendant les joueurs ne sont pas encore là, mais un jardinier haut de gamme bichonne le terrain en ce moment. Séance de luminothérapie, fertilisant, chauffage. Cet homme qui prend soin de la pelouse taillée à 22 mm, hein, c'est précis, c'est Jonathan Calderwood, recrue anglaise du club. Salaire tenu secret, mais c'est peut-être le jardinier le mieux payé de France. On parle d'ailleurs de grand manager, gestionnaire de terrain. Et vous allez comprendre pourquoi en l'écoutant décrire l'amour qu'il porte presque à ce carré de pelouse.
That's my baby.
C'est mon bébé. Ce terrain, je le vois plus que ma femme et mes enfants. J'y pense tout le temps. J'ai toujours un œil dessus grâce à des webcams. Vous savez, quand j'étais petit, je passais la tondeuse dans le jardin de la maison tous les jours. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'étais déjà passionné par l'herbe. Et par le football, évidemment. C'est plus qu'un travail pour moi. En Angleterre, où j'ai travaillé 20 ans, le terrain de foot, c'est un lieu sacré. On ne touche pas. C'est réservé aux joueurs. Ce n'est pas juste une étendue de gazon. C'est bien plus que ça.
Dis donc, c'est un véritable artiste, hein, cet homme-là. C'est un vrai passionné. Pourquoi, Martin, le club accorde-t-il autant d'importance à la qualité du terrain ?
Eh bien, parce que ça influe sur la qualité du match. Ce n'est pas qu'un critère esthétique. Écoutez ce membre de l'équipe du Grand Manager.
Les choses que les gens voient à la télé en priorité, c'est la couleur, les gros carreaux sur le terrain. Une fois qu'on rentre un petit peu plus dans le détail, on parle de stabilité, on parle de vitesse de jeu, on parle de rebond de ballon. Un joueur peut louper une occasion juste sur un faux rebond. Et le but peut coûter des millions et des millions d'euros au club parce qu'il ne se qualifie pas pour une demi-finale de Champions League ou quelque chose comme ça. Donc votre pelouse doit être au top, toujours être assez rapide pour l'équipe qui joue. Au niveau de la stabilité, il ne faut pas qu'il y ait de joueurs qui glissent. Donc c'est vraiment, vraiment du stress et on n'en fait jamais trop.
Bon, on l'a compris Martin, puisque les faux rebonds coûtent beaucoup d'argent, est-ce que la pelouse est prête pour ce soir ?
Alors oui, elle est prête, mais sachez que même pendant le match, le grand manager et son équipe seront au bord de la pelouse, pas pour regarder le jeu, hein, mais pour scruter les rebonds du ballon, sa vitesse de glisse, les dérapages des joueurs et intervenir, si besoin, pendant la mi-temps, en arrosant certaines zones du terrain, par exemple.
C'est fascinant. Merci Martin Fenot. Au Parc des Princes, on va revenir bien sûr sur ce choc très attendu tout à l'heure avec notre consultant Alain Roche à 7h45. Et puis bien sûr, rendez-vous ce soir pour le match retour PSG Manchester, 8e de finale de Ligue des Champion, c'est sur Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre l'édito de Nicolas Barret. Bonjour Nicolas.
Bonjour Pierre.
La fameuse taxe sur les GAFA est présentée ce matin au Conseil des ministres. Est-ce vraiment une si bonne idée ?
Eh bien justement, c'est une grande question. Pas évidente à répondre, vous allez voir.
Et puis 7h20, nouveau métier qui doit arriver en France sous peu, les assistants médicaux. Leur rôle, c'est soulager les médecins dans la gestion administrative ou pour réaliser des actes simples. L'idée fait pas l'unanimité. C'est le dossier à suivre dans Europe 1 va plus loin. À tout de suite.
Excellent réveil à tous sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Il est 7h15. Il est 7h16, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Pierre.
Avec des blocages en cours devant plusieurs prisons, dont celle de Fleury-Mérogis et de Condé-sur-Sarthe, les surveillants pénitentiaires demandent des mesures après l'agression au couteau de deux de leurs collègues hier. Le couple de détenus qui a justement mené l'attaque avait prémédité leur acte et dit avoir vengé la mort du terroriste du marché de Noël à Strasbourg. L'appel aux donneurs de l'établissement français du sang à cause des épidémies de l'hiver. Le nombre de dons est au plus bas, il faut 30 000 poches de sang en plus pour les trois prochaines semaines. Et puis le foot, bien sûr, Paris reçoit Manchester United ce soir pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions.
Europe 1.
C'est l'heure de l'édito éco avec la Société Marseillaise de Crédit, la banque pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une des huit banques du groupe Crédit du Nord.
L'édito éco avec Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos. La France va donc sévir contre les GAFA. On va le voir tout à l'heure avec Bruno Le Maire himself à 8h15 en studio. Les Google, Amazon, Facebook et Apple pour qu'ils payent plus d'impôts. Est-ce que c'est une bonne idée, Nicolas ?
Alors écoutez, c'est une très grande spécialité française qui est examinée ce matin en Conseil des ministres, un nouvel impôt. La fameuse taxe sur les GAFA donc est censée rapporter 1,5 milliard d'euros. Alors effectivement, est-ce que c'est vraiment une bonne idée ? C'est pas si évident que ça. Vous savez, c'est vrai qu'il est terriblement injuste de voir Carrefour ou Casino, pour ne prendre qu'un exemple, payer beaucoup plus d'impôts qu'Amazon. C'est une formidable distorsion de concurrence.
Bon, bah, c'est donc bien de taxer les GAFA, où est le problème ?
Alors, premier problème, il s'agit d'une taxe sur le chiffre d'affaires, donc sur la production, et non sur les bénéfices. C'est contraire au principe économique de base, j'allais dire de bon sens, qui consiste à taxer non pas l'activité elle-même, mais le profit qu'elle génère. Et ça a un effet pervers évident, celui de décourager l'investissement, en particulier dans le numérique. Est-ce vraiment ce que l'on recherche ? Je ne crois pas. Deuxième problème, alors, il est mis en avant par le lobby de l'industrie numérique, mais enfin, il faut quand même les écouter, c'est que cette taxe GAFA, dans la réalité, elle sera payée par qui, à votre avis ? Elle sera payée non pas par les GAFA eux-mêmes, mais par leurs clients. On vise Google et Facebook, mais en fait, on touche Monsieur Tout-le-Monde, qui utilise des services Internet, ou la PME du Cantal, qui fait de la pub sur Facebook pour gagner des clients. Selon les calculs du cabinet d'avocatage, là encore mandaté par l'industrie du numérique, 95% de la taxe sera payée par les clients et 5% seulement par les grands méchants GAFA. Est-ce vraiment ce que l'on veut ? Je ne crois pas non plus.
Bon, bah d'accord, mais on fait quoi alors ?
Eh bien alors, la réponse du gouvernement consiste à dire, bah tant pis, cette taxe a peut-être des défauts, mais on la fait quand même. Et preuve que les choses sont jamais complètement blanches ou noires, la taxe GAFA a quand même du mérite. D'abord, elle montre qu'il y a un sérieux problème et qu'il faut traiter, et que les GAFA ne peuvent pas continuer à jouer comme ça avec les fiscs du monde entier pour éviter l'impôt. Et puis deux, le fait que plusieurs pays comme la France, le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres en Europe décident d'avancer dans cette voie au niveau national, ça devrait finir par avoir un effet d'entraînement sur les autres. La taxe GAFA est donc bourrée de défauts, vous voyez, mais enfin, si elle peut avoir pour vertu d'accélérer l'harmonisation fiscale en Europe, eh bien, tout compte fait, ça se tente.
Bon, ça se tente, il y a quand même un point positif. Merci Nicolas Barret, directeur de la rédaction du journal Les Échos.
Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Il est 7h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin. Elle s'intéresse ce matin aux assistants médicaux, un nouveau métier qui devrait voir le jour sous peu pour aider les médecins français.
C'est l'une des mesures phares du plan santé 2022, présenté par Emmanuel Macron à l'automne. Création de 4000 postes d'assistants médicaux, un nouveau métier pour soulager nos médecins débordés, surtout de moins en moins nombreux. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour.
Spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1. On va tenter de comprendre avec vous en quoi consiste cette nouvelle formation, à qui ces formations vont s'adresser, pourquoi ça coince déjà du côté des médecins. Mais d'abord direction l'Allemagne, car là-bas, des assistants médicaux sont présents dans quasiment chaque cabinet médical. 15 000 sont formés chaque année. Reportage à Berlin de notre correspondante Hélène Kohl.
Dans ce cabinet de Berlin, c'est Jessica, l'assistante, qui s'occupe de délivrer les certificats médicaux, y compris de faire passer les tests d'effort aux patients. Le médecin ne vient que pour contrôler les données et signer le papier. Le docteur Bernd considère qu'il est là avant tout pour identifier les maladies, pas pour effectuer ses gestes routiniers.
La santé n'est pas une marchandise et nos patients, pas des clients. Nous sommes médecins, pas fournisseurs de prestations.
Jessica s'occupe donc de faire les pesées, de prendre la tension.
J'ai beaucoup de contacts avec les patients et je participe activement à l'élaboration du diagnostic.
À l'issue de ses 3 ans de formation en alternance, elle pourra même faire des prises de sang ou des tests d'allergie. L'autre généraliste du cabinet apprécie ce temps gagné qui profite aux patients au bout du compte.
Je comprends beaucoup mieux leur état. Les patients nous parlent davantage de leur famille, par exemple. J'ai une vision plus globale et une relation plus personnelle aussi.
Le métier est très valorisé en Allemagne pour une rémunération de 2000 euros bruts en début de carrière sans avoir le bac. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Voilà donc pour le modèle allemand, on voit que c'est un gain de temps pour le praticien qui a plus de temps donc pour s'occuper accessoirement du patient. Est-ce que ce sera la même chose en France, Mélanie Gomez ?
Alors oui, le gain de temps, c'est vraiment l'objectif chez nous aussi. Alors concrètement, ces assistants, ils seront moitié secrétaires, moitié soignants. Par exemple, ils vont s'occuper de gérer l'administratif du cabinet, toute la paperasse dont se plaignent tous les médecins libéraux. Cela peut aller de la prise de rendez-vous à la gestion du DMP, le dossier médical personnel du patient. Ils pourront aussi vérifier si les vaccinations sont sont à jour. Et puis surtout, ce nouveau métier, il aura aussi une vraie dimension médicale. C'est-à-dire que ces nouveaux professionnels de santé pourront réaliser certains actes simples, comme installer une personne âgée et lui prendre la tension, ou encore mesurer ou peser un bébé. Et ils feront en sorte, en fait, une sorte de pré-consultation, vous savez, un peu sur le modèle de ce que font déjà aujourd'hui les assistants dans les cabinets dentaires.
Bon, mais à qui va s'adresser cette formation ?
Alors, au ministère de la Santé, on m'a confié que ce serait plutôt un métier pour des aides-soignants ou pour des secrétaires médicales, les uns devant se former au secrétariat, les autres plutôt aux soins. Donc, pas question que cela devienne des postes d'infirmiers low cost, comme le craignent déjà certains syndicats de cette profession. Mmh. Pour le moment, on parle plutôt d'une formation courte, de moins d'un an, qui pourrait se faire par validation des acquis de l'expérience pour ces personnes en reconversion et qui pourrait donc débuter dès la rentrée prochaine.
Mais est-ce que pour les médecins, ça ne va pas être un coût supplémentaire de fonctionnement ?
Eh bien justement, alors pour faciliter leur recrutement, l'assurance maladie va financer une partie au moins du salaire de ses assistants. Le montant exact de cette subvention est justement en cours de négociation depuis le mois de janvier avec les syndicats de médecins. Mais qui dit subvention dit contrepartie, et c'est là que la négociation coince, explique le docteur Jean-Paul Ortiz, président de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français.
La Caisse d'assurance maladie a proposé comme contrepartie à l'aide qu'elle nous fournirait un passage de 3 à 6 consultations par heure. Les médecins ne peuvent pas accepter un critère de rentabilité qui reviendrait à voir un patient toutes les 10 minutes. Il n'en est pas question pour le bien des patients.
Alors, les négociations entre la Sécu et les médecins reprennent demain et on est encore loin d'un accord. Et ce qui risque de coincer aussi, c'est la durée de cette subvention finançant les postes d'assistants. Les médecins réclament qu'elle soit durable. Or, a priori, elle sera dégressive et probablement limitée à 3 ans.
Eh bien, nous verrons si ces assistants médicaux seront bientôt aux côtés de nos médecins. Merci beaucoup, Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1, et Hélène Kohl, notre correspondante en Allemagne, pour ce dossier. Europe 1 va plus loin.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À suivre, l'innovation avec Anis Mbida ce matin. Une idée complètement farfelue, mais alors, pour sauver la banquise du réchauffement climatique. Je vous en dis pas plus.
Bon réveil à tous sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Il est 7h24. Il est 7h25. EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour. Et l'innovation, c'est avec Anis Mbida, Pierre.
Bonjour Anis.
Bonjour Pierre.
Ce matin, un projet complètement fou pour contrer le réchauffement climatique. Il s'agit de recongeler une partie de la banquise fondue.
Oui, c'est tellement fou que j'adore. Hein. Ouais. Mais d'abord, il faut rappeler que la banquise est à son plus bas niveau historique. Hein. Plus de 35% de surface perdue en 25 ans. On n'avait jamais vu ça. Elles font de plus en plus vite l'été. Elles ne se reconstituent pas assez vite l'hiver. Donc, on veut en ce moment donner un petit coup de pouce à la nature. Et le projet, eh bien, c'est de pomper l'eau de l'océan Arctique, de l'étaler sur la banquise pour qu'elle gèle et qu'elle redonne un petit peu plus d'épaisseur à la calotte glaciaire. C'est une idée des scientifiques de l'Université de l'Arizona aux États-Unis. Et tous les détails du projet vient d'être publié dans la revue Earth Future.
Bon, j'imagine que ça doit demander une sacrée installation. Hein.
Oui, parce que l'idée, c'est de couvrir la plus grande surface possible, hein, donc d'installer des milliers, voire des millions de bouées avec des éoliennes, avec des pompes. Donc ça va évidemment coûter très très cher. Mais d'après leurs calculs, en un an de pompage, la banquise pourrait regagner comme ça jusqu'à 1 mètre d'épaisseur. 1 mètre comme ça, ça n'a pas l'air beaucoup, mais ça ramènerait à un niveau de banquise hein, d'il y a 17 ans.
Bon, mais pourquoi est-ce que c'est aussi important que la banquise reste gelée ?
On l'oublie, mais la banquise nous aide à lutter contre le réchauffement climatique. Mmh. Pourquoi ? Bah parce qu'elle renvoie les rayons du soleil grâce à la fameuse réverbération, hein, comme vous savez, comme au ski. En revanche, eh bien, quand la glace fond, ça devient de l'eau. Et l'eau, elle fait l'inverse, hein, elle absorbe les rayons du soleil et donc elle nous réchauffe. Donc c'est peut-être une idée complètement folle, mais ce qui serait encore plus fou, bah, c'est de rien faire et de regarder la banquise fondre et l'eau monter.
Mais en tout cas, merci de nous avoir rappelé ces fondamentaux. L'innovation tous les jours avec Anis Mbida.
L'innovation du jour avec EDF, mieux produire et mieux consommer chaque jour pour contribuer à la transition énergétique. Retrouvez dès maintenant plus d'informations sur edf.fr. Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, on parlait de la banquise à l'instant.
On va retrouver
Laurent Cabrol, oui, pour la météo.
Oui, vous voulez savoir
La météo.
Le temps du jour.
Vous voulez qu'on commence par où?
Je vais commencer par les températures, si vous le permettez, parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas donné à nos amis. Ils doivent s'inquiéter en se disant, mais comment vais-je m'habiller ce matin. Oui. 2 degrés à Nancy en ce moment, c'est franc, vous voyez, c'est franc quand même. 4 à Montélimar, 5 à Besançon, 8 à Lille, 9 à Paris, 10 à Lyon, 11 à Toulouse et 12 degrés du côté de Bordeaux et de Cognac. Alors en ce qui concerne les températures maximales, vous verrez qu'elles vont bien grimper dans la journée, entre 14 et 21 degrés, avec une pléiade de 16, 17, 18. Ah oui. On est vraiment dans des températures assez douces. Hein. Même, cela va durer cette douceur jusqu'en début de semaine prochaine. Enfin, une douceur relative, bien entendu. Alors la pluie est au rendez-vous, la pluie, il y a quelques orages, quelques arcs-en-ciel aussi. Je parlais de l'arc-en-ciel tout à l'heure. Il y a aussi des giboulées en masse. Et le temps, le mauvais temps, ce matin sur l'histoire de la Manche, le Nord, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, la Vallée de la Loire et le Poitou-Charentes. Et cet après-midi, tout ceci va glisser vers la Lorraine, le Berry, le Limousin et le Bordelais. Et pendant que là-haut, ça se joue en ligne droite, en bas, ça se joue à la toupie, c'est-à-dire que du côté du golfe du Lion, c'est une toupie qui tourne et qui amène du vent qui vient de la mer, c'est le vent marin et c'est le vent d'automne. Et là, c'est du gros temps aussi et c'est pas très agréable.
Vous revenez avec votre toupie tout à l'heure, juste avant 8h, Laurent Cabrol.
Pierre,
à suivre après le journal, Apathie et Dutheil avec Jean-Michel qui nous parlera des questions politiques après l'agression à Condé-sur-Sarthe, Emmanuel qui nous parlera du succès de la prime d'activité, puis 7h45, Alain Roche, notre consultant football, ancien dirigeant du PSG, ancien défenseur du PSG pour ce choc contre Manchester. Excellent réveil à tous.
En ce mercredi 6 mars, il est 7h30 tout pile.
7h, 9h.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
7h30, le journal Céline Kallmann. Bonjour Céline.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. Trois gardes à vue toujours en cours après l'agression très violente de deux surveillants dans une prison de haute sécurité dans l'Orne hier. Retranché pendant 10 heures, un radicalisé a été interpellé par le RAID. Sa compagne est décédée après l'assaut. Selon nos informations, les policiers du RAID ont été frappés par la détermination des deux assaillants. Même les messages de leurs proches n'ont eu aucun effet. Le détenu a affirmé vouloir venger l'auteur des attentats de Strasbourg, Chérif Chekat. Ce matin, le syndicat national pénitentiaire Force Ouvrière a appelé au blocage de toutes les prisons après cette nouvelle agression. Chanel Petit, vous êtes en direct de Fleury-Mérogis où le personnel est en colère.
Oui, et c'est une colère froide, de l'agacement, de l'épuisement. Pas de pneus qui brûlent, pas de barricades, pas de fumigène, comme on l'a vu à de nombreuses reprises ici. Juste une centaine de personnes debout sous la pluie fine, calme, mais déterminée à ne laisser passer personne aujourd'hui, ni gardien, ni salarié administratif, ni même visiteur. Un blocage total depuis 5 heures ce matin à l'appel des syndicats pénitentiaires FO et CGT. Des syndicats qui dénoncent une insécurité grandissante, la multiplication des agressions, couplée à un manque de moyens. On tient la prison avec des bouts de ficelle, me disait il y a quelques minutes un gardien. Les syndicats demandent ce matin une réponse politique à l'agression hier de leurs confrères, comme par exemple avec la création d'établissements adaptés à l'accueil des détenus radicalisés. Ce blocage devrait être levé en fin de matinée, mais pourrait reprendre dès demain matin ici à Fleury.
Chanel Petit en direct de Fleury-Mérogis pour Europe 1.
Carlos Ghosn s'apprête à quitter la prison au Japon où il se trouve depuis plus de 3 mois.
Oui, la caution fixée à environ 8 millions d'euros a été versée. L'ancien patron de Renault Nissan est accusé de malversation financière. Hier, le tribunal de Tokyo a donc accepté sa remise en liberté, mais une liberté qui sera très surveillée, nous précise l'avocat de la famille de Carlos Ghosn, François Imré.
Ce qui est certain, c'est que les restrictions sont très grandes quant à la possibilité d'évoquer le fond du dossier, qu'il y aura des caméras, qu'il y aura quand même une surveillance extrêmement forte. Ce n'est pas la liberté totale, loin de là. Mais à côté de ce cauchemar que fut l'incarcération très dure, avec des droits minimes dans cette prison de Kosuge, c'est vécu par lui comme une amélioration sensible. Mais enfin, il pourra mieux préparer sa défense et démontrer son innocence et recouvrer sa dignité, c'est ce à quoi il aspire le plus.
Maître François Zim, rejoint par Maud Descamps. C'est ce soir que Laurent Wauquiez va dévoiler 20 nouveaux noms de sa liste, les Républicains aux Européennes. On ne connaîtra pas la place des uns et des autres, les explications d'Hélène Jouan.
C'est Nicolas Sarkozy qui lui a vendu l'idée. Si tu leur dis tout de suite où ils sont placés, ceux qui sont assurés d'être élus se la couleront douce et ceux qui sont assurés de ne pas l'être ne feront rien. Laurent Wauquiez a topé là 20 nouveaux noms mais sans place attitrée pour que chacun jusqu'au bout gagne sa place. Mais le suspense n'est pas le même pour tous, car en privé, certains sont déjà assurés d'être en position éligible. C'est le cas des sortants, Brice Hortefeux, Nadine Morano ou encore Rachida Dati, qui avaient gagné la 6e place, mais qui finalement y renoncent pour briguer Paris. C'est le cas aussi de Frédéric Pechenard, ex-directeur de la police nationale et surtout un très proche de Nicolas Sarkozy, à qui décidément Laurent Wauquiez a choisi de faire plaisir. En revanche, d'autres savent qu'ils seront positionnés par exemple entre la 12e et 18e place. Et là, c'est une question de motivation, car 12e, c'est un départ possible pour Strasbourg, 18e, c'est un arrêt probable à Paris. Ça stresse un peu, avoue un des candidats incertain de son sort, mais le président des Républicains espère ainsi stimuler toute l'équipe afin de faire élire un maximum d'eurodéputés.
Hélène Jouan.
Jouan et Bruno Le Maire sera l'invité politique tout à l'heure à 8h15.
Europe 1, il est 7h34.
Retour ce matin auprès des rescapés de l'incendie meurtrier de l'immeuble de la rue Erlanger à Paris, près de la Porte d'Auteuil.
Oui, près de 200 personnes se sont retrouvées hier pour une marche blanche en mémoire des 10 victimes. L'occasion aussi de faire le point sur la situation de chacun. La majorité d'entre eux sont toujours logés à l'hôtel. Reportage de Justin Morin.
Un lit, un placard et une télé. Depuis presque un mois, Joséphine habite ce décor. Une chambre d'hôtel sans cuisine d'à peine 10 mètres carrés.
Petit, disons, mais bon, c'est déjà ça.
La mairie de Paris a promis d'agir, mais une seule proposition lui a été faite, loin de son quartier surtout, venant du même bailleur que l'immeuble rue Erlanger.
Hors de question. La mairie nous a fait remplir des papiers. On est prioritaire pour des logements, même un mois après. Il n'y a toujours rien qui s'est présenté, sauf cette ridicule proposition.
D'autres sinistrés habitent chez des proches, mais pour Nathalie, de retour chez son père, le temps commence à faire long.
J'ai un dossier qui ne rentre pas dans les cases, forcément. Donc ça fait le 5e logement que je fais depuis un mois. Donc je veux juste trouver un logement rapidement.
Sur les 68 demandes, une vingtaine pour le moment ont abouti. Jacques-Frédéric Sauvage est adjoint au maire chargé du logement dans le 16e.
Je comprends l'impatience. En plus, je comprends qu'ils ont l'impression qu'on ne s'occupe pas d'eux. En fait, on s'occupe d'eux et la mairie de Paris a mis une personne qui est quasiment à plein temps là-dessus, la mairie du 16e également. Maintenant, il faut qu'on trouve d'autres solutions. C'est pas facile.
Et même des solutions provisoires, puisque la priorité, c'est que plus aucun sinistré ne loge en hôtel d'ici la fin du mois.
Justin Morin pour Europe 1. Ce soir, une marche blanche est organisée à Grenoble en soutien aux familles des deux jeunes morts dans un accident de scooter samedi dernier, alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Le cortège doit se réunir à 16h dans le quartier Mistral. La proposition de loi contre la fessée arrive au Sénat aujourd'hui. Fin novembre, l'Assemblée nationale avait adopté le texte visant à interdire les violences éducatives ordinaires à l'encontre des enfants. Pierre, écoutez bien cette musique qui va forcément vous donner des frissons.
Ça y est, je mets mes crampons.
Et oui, comme le titre si bien l'équipe ce matin, Paris a un job à finir ce soir au Parc des Princes, 3 semaines après s'être imposé sur le terrain de Manchester United 2-0. Les Parisiens sont en position de force pour se hisser en quart de finale de la Ligue des Champions. Et vous pourrez vivre cette rencontre exceptionnelle en intégralité sur Europe 1.
Et d'ici 9 minutes, notre consultant à la roche là-dessus.
Et hier soir, grosse surprise pour le triple tenant du titre, le Real Madrid humilié et éliminé par l'Ajax Amsterdam, 4-1.
Merci, c'était le journal de Céline Kallmann.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Dans un instant, le duo Apathy-Dutheil avec la politique Jean-Michel Apathy.
Il faut revenir sur le drame de Condé-sur-Sarthe pour évoquer ce qui menace de manière très importante et très directe la démocratie française, c'est le radicalisme islamique.
Et l'économie, Emmanuel Dutheil.
Le gouvernement très heureux de dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, parce que la prime d'activité est un carton, c'était une réponse aux gilets jaunes, mais faut-il vraiment s'en féliciter? On va voir ça dans un instant.
Apathy-Dutheil dans un instant sur Europe.
Bon réveil, il est 7h36. Il est 7h39, Pierre de Villeneuve, c'est l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et l'épisode dramatique de la prison de Condé-sur-Sarthe s'est donc terminé hier soir dans un bain de sang. Le raid a interpellé le détenu radicalisé qui avait grièvement blessé les deux surveillants. Sa compagne est décédée. Le bilan est lourd, Jean-Michel Apathy. Et ce matin, ce drame pose plusieurs questions.
Oui, des questions qui sont toutes liées au radicalisme islamiste et qui sont des questions qui dessinent un danger terrible pour la société française. La prison et la détention n'ont de sens dans une démocratie que si celui qui est incarcéré prend conscience de la gravité de l'acte qu'il a commis, s'il cherche à changer pour se réinsérer dans la société. Mais ce schéma de la détention dans une démocratie, ça ne vaut rien pour les radicalistes islamistes. Et le drame de Condé-sur-Sarthe le montre bien. Michael Kiolo s'est converti à l'islam, puis radicalisé avant d'entrer en prison. Et en prison, visiblement, si on peut dire, ça ne s'est pas arrangé. Ce qui s'est passé hier le montre. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, dès midi hier, dit qu'il s'agit d'un acte terroriste. Bien sûr, mais un acte terroriste en prison, ça défie l'entendement et le bon sens. Michael Kiolo n'a pas 30 ans. Il a été condamné en 2014 à 30 ans de prison. Avec ce qui s'est passé hier, il ne sortira jamais de prison. C'est un échec terrible pour la société. La prison ne sert à rien dans ces cas-là. Et est-ce qu'on imagine les conditions humaines et psychologiques des gardiens qui vont devoir garder cet homme-là toute sa vie? Ça défie l'entendement. Les radicalistes islamistes, en prison en France, il y en a beaucoup. Cette année 2019, il y en a à peu près 400 qui vont sortir. Pourquoi ? Parce que le droit a été dit, la loi a été appliquée, les peines ont été purgées et on ne peut pas les retenir indéfiniment en prison. Mais 400 personnes radicalisées dans la société, c'est 400 bombes potentielles. Alors les pouvoirs publics ont déjà dit oui, mais on va les surveiller particulièrement. Mais ça, c'est du flan. Parce que des individus qui sont libres dans la société, ben, ils sont très difficiles à surveiller, évidemment. Et on peut noircir encore le tableau du radicalisme islamiste en France. En Syrie, la guerre est terminée. Des Français ont été faire le djihad. Il y en a une cinquantaine à peu près. Certains vont être jugés par la justice irakienne et on en est soulagés. Mais d'autres, soit ils repartent dans la nature, soit ils reviennent en France. Et les pouvoirs publics sont en train, alors dans la discrétion, personne ne va en parler, mais en train de préparer leur retour en France. Ils vont les mettre en prison, bien sûr. Mais est-ce qu'on imagine l'aura auprès de ceux qui sont déjà radicalisés, de Français qui ont été faire la guerre en Syrie, le djihad ? Quel potentiel de prosélytisme en prison ? Ils peuvent déséquilibrer des prisons. Ce sont des problèmes majeurs. C'est un problème, le radicalisme islamiste en France, qui est le fait de Français que nous ne pouvons affronter qu'avec les armes de la démocratie. Et ça veut dire qu'il nous faudra beaucoup de courage et beaucoup de sang-froid pour affronter dans les mois et les années qui viennent ce problème particulier face auquel, il faut bien le dire ce matin, on est un peu démunis.
L'édito politique de Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Le Zoom Écho avec vous, Emmanuel Duteil. Ce matin, on revient sur la prime d'activité. Ses critères d'attribution ont été revus à la hausse pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Et du coup, le nombre de bénéficiaires s'envole.
On est le 10 décembre, le président de la République s'exprime solennellement à la télévision. Il vient pour tenter de calmer la crise des Gilets jaunes. Et dans sa besace, une mesure phare, une augmentation de 100 euros maximum via la prime d'activité pour ceux qui sont autour du SMIC. Le but est double, convaincre ceux qui ont le droit déjà d'y souscrire. Ça peut paraître complètement fou, mais comme ce n'était pas très facile pour y prétendre, de nombreux bénéficiaires de la prime d'activité n'en faisaient pas la demande. Donc ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, les critères sont élargis et elle est donc ouverte à plus de monde. Et ça marche. Il y a aujourd'hui un peu plus d'un million de bénéficiaires en plus. Ce qui peut paraître étonnant, c'est que plus de la moitié des nouveaux bénéficiaires y avaient déjà le droit avant la réforme. Ça pose au passage une vraie question sur l'efficacité des mesures prises. En tout cas, on se rapproche aujourd'hui de la barre des 5 millions de bénéficiaires.
On peut parler de succès ?
C'est en tout cas comme cela que le gouvernement le vend. Pour lui, ça montre qu'il a été à l'écoute, qu'il rend du pouvoir d'achat aux plus modestes. Ce serait donc une véritable réponse aux Gilets jaunes. C'est en partie vrai. Mais pourquoi seulement en partie ? Eh bien parce que tout le monde ne touche pas le maximum de cette prime, bien loin de là. Pour un célibataire sans enfant rémunéré au SMIC, la prime s'élève à 241 euros par mois, soit 90 euros de plus qu'avant les annonces, selon le gouvernement. Mais en fonction des salaires, certains se sont retrouvés seulement avec quelques euros en plus du salaire. Et là, ça a créé tout ce qu'il ne faut pas, encore plus de déception.
Et vous me disiez, Emmanuel Rantaine, que cette prime a aussi permis de créer de l'emploi ?
Ah bah c'est bien, ça vaut le coup que je vous parle avant, parce que vous avez bien retenu. Mais pardonnez-moi l'expression, on peut quand même parler de double effet qui se coule dans ce cas-là, puisque avec cette revalorisation de la prime, les caisses d'allocation familiales qui versent cette prime sont tout simplement prise d'assaut. Le gouvernement a donc annoncé, c'était en fin de semaine dernière, le recrutement en urgence et en CDI de 140 agents supplémentaires. Ils doivent permettre d'absorber dans les meilleures conditions le surcroît d'activité. Il faut surtout espérer que cette prime, qui vise quand même à encourager le travail en rendant plus attractive la reprise d'une activité, même si celle-ci est faiblement rémunérée, remplira aussi quand même de ce côté-là ses objectifs.
Merci Emmanuel Duteil et parlons-nous donc avant l'antenne comme ça on saura
ça rend les chroniques meilleures.
C'est ça.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Dans un instant, tout ce qu'il faut savoir sur le choc attendu ce soir, le match retour entre le Paris Saint-Germain et Manchester United au Parc en 8e de finale de Ligue des Champions. Notre consultant foot Alain Roche, ancien joueur du PSG, s'installe en studio. Est-ce qu'on peut le faire ? Yes, we can ? Je lui pose la question.
Il est 7h45. À tout de suite sur Europe 1. Il est 7h46. Les principaux titres à retenir ce matin, Pierre Devineau.
Le personnel pénitentiaire mobilisé ce matin au lendemain de l'agression de deux surveillants de prison. Trois personnes en garde à vue retranchées pendant 10 heures après avoir poignardé deux surveillants dans une prison de l'Orne. Un radicalisé interpellé par le RAID, sa compagne décédée après l'assaut. Le parquet antiterroriste saisi de l'enquête. Témoignage édifiant sur Europe 1 ce matin, celui de la femme de Jean-Michel Klein, le djihadiste français qui avait prêté sa voix à la vidéo de revendication des attentats du 13 novembre et tué en Syrie il y a quelques jours. Elle justifie tous les actes de l'État islamique. Vous suivrez ça tout à l'heure dans le journal de 8h sur Europe 1. La Ligue des Champions place ce soir au PSG qui doit finir le travail face à Manchester. Hier soir, le Real Madrid, triple tenant du titre, s'est pris une fessée, éliminé des 8e de finale de la Ligue des Champions après sa défaite contre l'Ajax Amsterdam 4-1.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve, vous en parliez à l'instant, à quelques heures de PSG Manchester, le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Vous recevez ce matin notre consultant Alain Roche.
Oui, consultant, ancien défenseur international du PSG, champion de France 94, vainqueur de la Coupe des Coupes avec le PSG. C'était en 96, le seul trophée européen du club parisien. Bonjour Alain Roche.
Bonjour à tous.
C'est un plaisir de vous retrouver ce matin.
Merci.
Vous êtes aussi ancien dirigeant du PSG. C'est dire que s'il y a une personne pour parler de ça, c'est bien vous. Avant d'évoquer ce duel Paris, les joueurs, dis donc, le Real Madrid éliminé, c'est totalement fou? Ou
oui,
pas?
C'est un cataclysme, on n'avait jamais vu ça, surtout après le match aller où le Real s'est imposé 2-1 là-bas. Mais le scénario était fou, Varane qui rate une occasion très franche en début de match de blesser du Real de Madrid et une efficacité incroyable de ces joueurs de l'Ajax. On est en train de découvrir une génération exceptionnelle qui peut faire beaucoup de mal au football.
Ouais. Parlons de nous, on va être un peu chauvin, oui, Alain Roche, si vous voulez
l'être.
Bien. Le PSG vainqueur à l'aller de ce match 2-0, les Parisiens peuvent retrouver les quarts de finale de la compétition 3 ans après?
Oui, en tout cas, ils sont bien partis avec ce match aller exceptionnel en termes d'état d'esprit, d'organisation. S'ils gardent la même mentalité, je ne vois pas qu'il y ait un souci ce soir. Mais il faut garder l'humilité, à l'image de ce qui s'est passé hier soir avec le Real de Madrid. Mais je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre ce soir, sachant que Manchester est totalement décimé.
Diminué,
aussi.
Décimé,
on peut dire.
Ouais.
Oui, parce que le milieu
c'est
de terrain...
C'est la guerre de tranchées, là. Hein.
Exactement.
Il manque Pogba
qui est suspendu, le milieu de terrain qui est titulaire habituellement est blessé, des attaquants aussi... Voilà, après, méfiance avec ces Anglais qui ont toujours un état d'esprit
conquérant. Eux, ils croient à la remontada.
Il faut y croire, absolument.
Avec la référence à Barcelone il y a 2 ans.
On va arrêter, on va parler de comeback maintenant sur la remontada.
Oui, mais soyons anglais.
Mais le PSG est fort et sûr de lui et capable de...
Ouais, fort et sûr de lui, mais est-ce qu'il est totalement à l'abri avec cette avance de 2 buts?
Je le pense, réellement.
Ouais.
Oui, parce que cette équipe est en pleine dynamique positive, elle a beaucoup de confiance en elle, elle a abordé avec un superbe état d'esprit le match aller, elle s'est imposée grâce à sa maîtrise technique, elle est en pleine confiance. Je la vois pas déraper ce soir en tout cas.
Ce soir, c'est ce qu'on appelle une ambiance des grands soirs, hein, au Parc des Princes, certainement. Ça doit vous rappeler de bons souvenirs?
Oui, l'ambiance est revenue au Parc des Princes avec la cube qui s'est installée du côté d'Auteuil. On aimerait qu'il y ait la même ambiance du côté de Boulogne aussi, mais ça va prendre un peu plus de temps. Mais c'est vrai que ces rendez-vous sont importants pour les joueurs et pour les fans aussi.
Et pour ces grands soirs, comment est-ce qu'on se prépare? Qu'est-ce qui fait la différence?
Le mental. Techniquement, on ne va rien leur apprendre. Tactiquement, Thomas Tuchel a préparé cette équipe au mieux. On le voit avec cette série de victoires. Ils sont quand même...
Ouais, mais on a envie de venir dans les vestiaires avec vous. Comment vous dites le mental? C'est normal, vous êtes, le nez dans le guidon. Vous comprenez ce que ça veut dire. Mais pour les gens qui sont néophytes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un entraîneur qui arrive et qui fait... Pas un lavage de cerveau, mais littéralement un training mental dans le vestiaire avant le match.
Ces joueurs ont de l'expérience, ils sont tous internationaux, ils ont joué des grands matchs, ils ont joué la Coupe du Monde, donc pour tous ces joueurs-là, c'est le Graal, c'est la Ligue des Champions, c'est quand même l'apothéose de gagner ce titre exceptionnel, donc ils sont prêts techniquement, ils sont prêts tactiquement. Ce qui fait la différence dans ces matchs-là, c'est juste l'état d'esprit, le mental, comment on approche ces matchs-là, mais ils sont tellement motivés par ces grands rendez-vous où ils sont sur la scène quasiment internationale, où tout le monde les voit dans le monde entier.
Ils sont motivés, ils ont besoin d'être remotivés encore plus.
Non, je ne crois pas,
voilà.
Ils n'ont pas besoin, non. Là,
ça
on parle simplement d'organisation tactique, parce que c'est ce qui fait la différence à ce niveau-là. Parce que toutes les équipes que vous rencontrez ont quasiment le même niveau d'intensité, de technique que vous. Donc c'est l'approche technique qui est très importante et l'approche de la confiance, surtout ne pas douter, ne pas avoir peur de l'accident.
Est-ce qu'on peut comparer le PSG d'il y a 25 ans au PSG d'aujourd'hui? Ou ça n'a vraiment rien à voir?
Ça n'a rien à voir, les budgets ne sont pas les mêmes. On est sur un budget quasiment
mais à part
500
le budget.
Millions d'euros. Après, c'est la dimension internationale. Et à l'image de la signature qu'il y a eu avec la marque Jordan, l'un de rien, il ne faut pas oublier ça. Tous les stages se font à l'étranger, mais pas à l'étranger en Europe. Ça se passe en Asie, aux États-Unis. Voilà, on a des stars planétaires dans ce club-là, entre Mbappé, Neymar et bien d'autres aussi. Non, ce n'est pas pareil. Ce qui reste, c'est quoi? Le stade, qui est toujours aussi exceptionnel, et les supporters.
Mais vous qui avez tellement de souvenirs avec le PSG, je ne vais pas parler de regrets, mais il y a toute une page du PSG qui... C'est une histoire qui continue. Vous la retenez, vous? Quel est votre plus grand souvenir, vous? 96
Mais bien sûr, on a quand même galéré pendant 5 ans pour gagner cette Coupe d'Europe. Alors c'était la Coupe des Coupes, c'est peut-être pas la plus belle, mais on a quand même fait une demi-finale de Ligue des Champions au bout de 2 ans avec l'arrivée de Canal+. Donc on était la meilleure équipe d'Europe en termes de régularité. Bon, c'est ça que je retiens, c'est les performances, et on retient que ça dans une carrière, c'est la régularité.
Vous vous souvenez de ce match minute par minute?
Dans votre tête, quasiment.
Je me souviens de la préparation des 4 jours au préalable, l'arrivée au stade, la veille, l'arrivée en bus à Bruxelles. On s'était arrêté dans une station de service à manger des petits triangles.
C'est pas très diététique, mais
ça nous a permis quand même de s'imposer.
On va parler du PSG d'aujourd'hui et surtout de Neymar. Ouais. Il sera présent ce soir en tribune malgré sa blessure au pied. Il est rentré exprès du Brésil. Ça vous a choqué, son interview à la télé brésilienne, ses velléités de rejoindre le Real Madrid ?
En tout cas, ce n'est pas anodin. Neymar ne fait rien sans rien. Il est entouré d'une armada de communicants. Son père est omniprésent. Ouais. Il y a beaucoup d'agents. Il l'a dit, il se moque du Ballon d'Or. Ce qui l'intéresse, c'est quoi ? C'est être reconnu mondialement. Le Real Madrid peut lui donner ça. C'est le club le plus connu au monde.
Enfin, il est connu mondialement, pardon.
Mais... Oui, il est connu mondialement, oui. Mais là, quand vous êtes au Real de Madrid, c'est pas pareil. Ouais. C'est une dimension supérieure.
Pourquoi ?
Parce que c'est le club le plus regardé, le plus suivi au monde. Mm. Voilà. Et là, de rien, il n'y a plus de stars maintenant à Madrid. Mm. Ronaldo est parti.
Donc il y va. À votre avis, il y va.
Attendez, il y a un club qui est le Paris Saint-Germain qui a un contrat avec lui. Donc il va falloir payer un transfert.
Est-ce qu'il irait plus tôt ?
Il peut partir plus tôt, en tout cas, je pense qu'il a, il l'a annoncé. C'est pas pour avoir une augmentation, ça c'est sûr. Je pense que le salaire est entièrement suffisant. Je suis pas sûr qu'il en gagne plus ailleurs, même au Real de Madrid. Mais la dimension de ce club-là, le Real de Madrid, n'a pas d'équivalent dans le monde entier. Et on parlerait plus de lui qu'on en parle ici. Puisque là, de rien, il y a un garçon qui s'appelle Mbappé, qui a simplement 20 ans, qui est français, dont on parle plus de Neymar actuellement.
Est-ce que c'est la bonne année pour gagner cette Ligue des Champions, pour toutes les raisons qu'on sait, l'obsession aussi des Qataris d'avoir
Le Real qui se fait éliminer, à regarder toutes les équipes européennes, on ne voit pas une équipe qui est au-dessus du lot, c'est assez homogène, et l'équipe gagne et s'impose de belle manière, sans Neymar, sans Cavani, avec le retour de ces garçons-là, c'est des atouts supplémentaires.
Merci beaucoup Alain Roche, consultant foot d'Europe 1, soirée spéciale sur Europe, dès 20h ce soir autour de Lionel Rousseau et jusqu'à 23h30, en direct, en public, au studio Belmar d'ailleurs. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus, de rue des Cévennes, dans le 15e à Paris. Le match sera diffusé sur grand écran avec bien sûr nos commentaires. Merci Alain et allez Paris.
Paris, ouais.
Et si vous souhaitez nous envoyer votre pronostic, par exemple, nous parler de ce match, ça se passe sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
À ne pas manquer dans le journal de 8h, le récit d'une journée d'angoisse hier à la prison de Condé-sur-Sarthe, l'intervention des policiers du raid pour maîtriser le terroriste et sa compagne retranchée. Et puis dans une minute, la petite histoire de Jean-Philippe Ballas. C'est une histoire belge, hein. C'est une coureur cycliste stoppée en pleine course par les organisateurs. Parce qu'elle était trop rapide, ça s'invente pas.
Il est 7h54, excellent réveil sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Il est 7h57, l'heure de la petite histoire du jour, Pierre de Villeneuve.
Vous savez quoi, Jean-Philippe Ballas, c'est ce constat, en cyclisme aussi, parfois ça va trop vite pour les hommes.
Et bienvenue dans les Ardennes flamandes, ces jours de classique avec une course pour les hommes et une course pour les femmes. Deux épreuves donc. Sur un même tracé, quasi en même temps, mais pour éviter toute confusion, le peloton des garçons partira en premier. Le départ des filles sera donné 10 minutes plus tard. En principe, pas de mélange possible. J'ai bien dit en principe. Car chez les femmes, il y a Nicole Hanselmann. C'est une jeune cycliste suisse de 27 ans, très en forme. Et dès le 7e kilomètre, elle passe à l'attaque. Une échappée solitaire qui dure. Et à votre avis, qui voit-elle bientôt en ligne de mire ? Le peloton des hommes, pardi. Oui, à force d'avoir le nez dans le guidon, Nicole Hanselmann a fini par rattraper ce décalage de 10 minutes en une trentaine de kilomètres. Bref, c'est du jamais vu ou presque. Elle va bientôt se mêler à l'épreuve masculine. Sauf que, non, disent les organisateurs, un peu surpris, un peu embarrassés, mais le règlement, c'est le règlement. Et c'est ainsi qu'ils vont stopper carrément Nicole Hanselmann. Pied à terre, le temps que les garçons reprennent un peu d'avance. Visiblement, la cycliste ne sait pas trop si elle doit éclater de rire ou piquer une grosse colère. Entre nous, les amis, est-ce qu'on aurait fait pareil avec un homme ? Je pose la question. Parce que oui, forcément, dans le même temps, la cycliste est rattrapée par les autres concurrentes. Fin de l'échappée, Nicole Hanselmann terminera la course dans les profondeurs du classement. Et comme elle le dira un peu plus tard et avec pas mal d'humour, soit les filles allaient trop vite, soit les garçons allaient trop lentement. Au fait, vous savez quoi ? À la fin de la semaine, vendredi, le 8 mars, pensez-y, ce sera la journée internationale des droits des femmes.
Jean-Philippe Ballas et sa bicyclette. Merci, à demain.
Et sa paulette.
À suivre le journal de Sébastien Krebs.
Mais ça va pas, Laurent Cabrol.
Mais tout de suite, on l'a entendu, c'est Laurent Cabrol pour la météo.
Mais ça va pas.
Totalement dingo, cette
amour. Paulette qui fait du vélo avec tellement de grâce, on l'a chanté. Alors,
la météo, Laurent
Gabriel. Littoral de la Manche, merci. Le nord, la région parisienne, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes et la Vendée. La pluie arrive ce matin, elle est déjà là bien souvent, et elle va gagner dans l'après-midi la Lorraine, le Berry, le Limousin, le Bordelais et le littoral aquitain. Et puis si vous habitez le Languedoc, le Roussillon, le Midi-Pyrénées ou les Cévennes, là vous aurez du vent d'autan, du vent marin, et vous aurez en même temps donc un temps très agité avec des vents autour de 70-80 km/h. Ces vents seront présents également dans l'après-midi sur la Provence, la Côte d'Azur, la vallée du Rhône et le Piémont pyrénéen. Je n'oublie pas nos amis qui habitent la Bourgogne, la Franche-Comté, le Midi-Pyrénées dans son ensemble ou l'Alsace. Vous aurez, vous, un ciel le plus souvent voilé. Les températures vont s'échelonner entre 15 et 20 degrés, 15 à Paris, 16 du côté de Tours, 17 Dijon, 19 à Biarritz et 20 degrés du côté de Toulouse. Nous atteindrons même 22 degrés à Saint-Girons exactement.
Merci Laurent Cabrol.
Et excellente matinée sur Europe 1 ce mercredi 6 mars. Bon réveil, il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Pierre de Villeneuve.
Et à 8h, le journal est présenté par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Toute l'actualité du jour.
Ne pas flancher alors que le plus dur est fait. Le PSG doit confirmer son exploit du match aller ce soir au Parc des Princes face à Manchester United avec à la clé une place en quart de finale de la Ligue des Champions. Attention, attention à ne pas reproduire le scénario catastrophe d'il y a 2 ans. Les surveillants de 19 prisons mobilisés ce matin, mouvement de solidarité envers leurs 2 collègues attaqués hier par un détenu radicalisé à Condé-sur-Sarthe. L'homme voulait venger le terroriste du marché de Noël de Strasbourg. À suivre également, les douaniers de Calais alertent sur l'impréparation totale de leur service en cas de Brexit dur dans 3 semaines. Un document européen, Didier François a rencontré en Syrie la femme de l'un des 2 frères Klein, les djihadistes français qui avaient revendiqué les attentats du 13 novembre. Ils seraient morts tous les 2. Et puis Fabrice Luchini et Camille Cotin à l'affiche du Mystère Henri Pic au cinéma adapté du best-seller de David Fuenkinos.
8h12 après votre journal, Vincent Hervouette, l'académie antiterroriste voulue par Emmanuel Macron. 8h15, Audrey Crespo-Mara reçoit le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire.
Europe 1.
Les joueurs parisiens ne veulent plus en entendre parler, mais les supporters auront forcément en tête ce soir la débâcle d'il y a 2 ans, la fameuse remontada terrible barcelonaise qui avait éliminé le PSG. Il ne faut pas que l'histoire se répète. Match retour ce soir au Parc des Princes contre Manchester United, cette fois après, là aussi, une belle victoire 2-0 à l'aller. Bonjour Jérôme Lacroix.
Bonjour Sébastien.
Est-ce que cette fois on peut y croire? Est-ce que le sort est conjuré?
La remontada, ce démon dont on leur rebat les oreilles. S'y attendez, hein, les joueurs. Arrêtons d'avoir peur, avait assigné Kylian Mbappé dès la fin du match aller en Angleterre il y a 3 semaines. Parce que depuis cet insensé soir de mars 2017, l'équipe elle a changé. Plus de 400 millions d'euros investis. Mbappé, Neymar sont notamment arrivés. Mais bien sûr, les Anglais pas favoris ne se sont pas gênés pour exhumer le fantôme. La remontada, tout le monde s'en souvient, a dit hier le jeune entraîneur mancunien. Aucune mission n'est impossible. Les supporters parisiens sont, eux, archi confiants. Il ne croit pas à un bégaiement de l'histoire.
C'était une autre époque, c'était un autre temps. C'est plus le même PSG.
Paris, ils vont gagner 3-0.
Manchester peut revenir, croyez-moi, mais on va leur mettre 4-2. C'est fait, c'est signé.
On compte sur eux.
Il y a Mbappé au centre et qui en plante 2 à chaque match.
Et oui, Mbappé, le tube but du moment 6 lors des 5 derniers matchs. Cependant qu'à Manchester, la casse tracasse, 9 blessés, plus 1 Paul Pogba suspendu. Ça fait 10 absents. Alors oui, pour répondre à votre question, tout semble réuni pour franchir l'écueil des 8e de finale sur lequel les Parisiens se sont échoués ces 2 dernières saisons.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix. C'est fait, disent les supporters. On verra ce soir, match à suivre en intégralité sur Europe 1, soirée spéciale dès 20h. Autour de Lionel Rousseau et en public dans notre grand studio Pierre Belmar. Et puis on parlait de remontada hier soir, c'est le Real Madrid qui a pris une claque. Drame au Bernabéu, titre la presse espagnole ce matin, le triple tenant du titre éliminé de la Ligue des Champions par l'Ajax d'Amsterdam, 4-1 hier soir.
Ouais, la casse tracasse pour reprendre l'expression de Jérôme Lacroix. L'autre grand titre ce matin, Sébastien, ce sont les surveillants de prison mobilisés depuis l'aube.
Les personnels pénitentiaires veulent marquer le coup après l'attaque au couteau commise par un détenu radicalisé qui a visé 2 surveillants de la prison de Condé-sur-Sarthe. Hier, ce matin, leurs collègues occupent les entrées, filtrent les accès. Mobilisation recensée dans 19 centres pénitentiaires comme à Fleury-Mérogis en région parisienne. Écoutez Thibaut Capel de Force Ouvrière.
C'est une accumulation de tout depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on voit une administration pénitentiaire décadente. Nous, on nous demande de tenir les établissements, franchement, avec des bouts de ficelle. Aujourd'hui, on n'a pas du tout les moyens de lutter contre les introductions d'objets dangereux, les trafics de stupéfiants. Vous avez des téléphones portables qui rentrent non-stop. C'est véritablement un enfer à gérer. Nous, on est en sous-effectif régulièrement. Un coup, on remet à la hausse, mais le problème, c'est qu'on a tous les collègues qui partent parce que l'administration est de moins en moins attractive. Et le problème, c'est que nous, en les laissant partir, on se met, nous, en danger. Puisque la première sécurité dans un établissement pénitentiaire, c'est le collectif.
Propos recueillis par Chanel Petit à Fleury-Mérogis pour Europe 1. Les deux surveillants blessés à Condé-sur-Sarthe sont hors de danger, mais c'est bien l'antiterrorisme qui est chargé de l'enquête. Trois personnes étaient en garde à vue hier soir. L'assaillant, un détenu radicalisé de 27 ans, est lui hospitalisé. Il a été blessé dans l'assaut du raid quand sa compagne et complice, elle, a été tuée. Il a expliqué vouloir venger Shérif Shekat, l'auteur de l'attentat du marché de Noël de Strasbourg. Et ce qui frappe ce matin dans les récits que vous avez rassemblés, Salomé Legrand, c'est l'extrême détermination du couple à laquelle ont été confrontés les policiers qui sont intervenus.
Oui, quand les forces spécialisées arrivent, la scène est figée. Le détenu et sa compagne se trouvent dans l'unité de vie familiale, mais ils ont des voisins, un autre couple dont l'homme est aussi soupçonné de radicalisation. Il faut donc d'abord vérifier qu'ils n'ont rien à voir avec les faits, puis les exfiltrer. Ce sera le cas en début d'après-midi. Les négociateurs du raid entrent alors en contact avec le couple retranché via les interphones. S'ensuit une demi-heure de revendication. Le détenu affirme vouloir venger le terroriste de Strasbourg. Il hurle des Allahu Akbar, veut mourir en martyr et affirme même être en possession de ceintures explosives et d'acide sulfurique. Sa compagne, qui prétend elle être enceinte sous une ample djellaba, n'a pas été fouillée à l'entrée au-delà du détecteur de métaux et elle a des fils suspects qui dépassent de ses vêtements. L'intervention, déjà compliquée par les portes sécurisées de la prison, est d'autant plus prudente. Tous les moyens de reconnaissance possibles sont envoyés devant les deux issues du petit appartement. D'après nos informations, les équipes qui ont retrouvé le couple, finalement replié dans la minuscule salle de bain, ont été frappées, je cite, « par leur furieuse détermination ». Même les messages de leurs proches n'ont eu aucun effet.
Salomé Legrand du service police-justice d'Europe 1.
Il est 8h06.
À Grenoble, après trois nuits de violence, les parents de l'un des deux jeunes morts à scooter alors qu'ils tentaient d'échapper à la police appellent au calme. Pas de nouveaux incidents signalés hier soir. Cet après-midi, une marche blanche aura lieu dans le quartier Mistral en soutien aux familles.
Toujours pas d'avancée dans les négociations sur le Brexit et à Calais, les douaniers s'inquiètent.
Aucun débouché annoncé après une nouvelle séance de discussion hier à Bruxelles et chaque jour qui passe d'ici à la date butoir du 29 mars augmente le risque de voir se réaliser le pire des scénarios, une sortie sans accord avec retour immédiat des contrôles douaniers. Lionel Gougelot, vous êtes à Calais, c'est exactement ce que redoutent les douaniers que vous avez rencontrés qui estiment qu'ils n'en auront pas les moyens et ils ont entamé une grève du zèle.
Effectivement, c'est un mouvement qui consiste en fait à appliquer rigoureusement les procédures de contrôle douanier renforcées qui seront en vigueur en cas de Brexit dur, préfiguration selon eux, eh bien de ce qui se passera au lendemain du 29 mars. Et qui dit contrôle renforcé dit ralentissement du flux de camions dans le tunnel sous la Manche et au terminal des ferries. Résultat, eh bien, encore une fois ce matin, sur l'autoroute A16 et sur la rocade portuaire de Calais, plusieurs kilomètres de files de camions en attente de traverser en Grande-Bretagne. Alors, pour limiter l'engorgement aux abords de Calais, les autorités ont mis en place des zones de stockage de poids lourds en amont sur les principaux axes, comme lors des alertes météo à la neige. Ce troisième jour d'action des douaniers risque de pénaliser fortement les sociétés de transport qui font transiter leurs camions par Calais. Dans la perspective du Brexit, Eurotunnel et le port de Calais ont prévu des aménagements spéciaux pour les futurs contrôles douaniers, assurant qu'il n'y aura pas d'embouteillage. Le gouvernement, lui, a entamé le recrutement de 700 douaniers pour les ports français de Manche et de Mer du Nord, mais cela ne rassure pas donc les syndicats des douanes qui s'engagent donc dans cette troisième journée d'action.
Lionel Gougelot en direct de Calais pour Europe 1. La taxe contre les GAFA en Conseil des ministres aujourd'hui. Faute d'accord européen, la France s'attaque seule aux géants du net. Le projet prévoit de prélever 3% du chiffre d'affaires réalisé en France par ces mastodontes du numérique qui ont plutôt l'habitude d'envoyer leurs bénéfices à l'étranger.
Et ce projet justement de Bruno Le Maire, on en parle tout à l'heure dans 5 minutes sur notre antenne.
Europe 1.
À suivre dans le journal, un document européen. Didier François a pu rencontrer en Syrie la femme de Jean-Michel Klein, le djihadiste français qui avait revendiqué les attentats du 13 novembre. A tout de suite.
Il est 8h10, votre
votre matinale info, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal, Sébastien Krebs, il figurait parmi les djihadistes français les plus recherchés. Les frères Klein seraient morts tous les deux dans la dernière poche de l'État islamique.
Ils apparaissaient dans la vidéo de revendication des attentats du 13 novembre. Le premier, Fabien Klein, a été tué il y a deux jours. Le second, Jean-Michel, serait mort lui aussi. C'est ce qu'affirme sa femme dans un document recueilli par notre envoyé spécial en Syrie. Didier François, vous l'avez rencontré alors qu'elle fuyait les combats. Et elle ne renie en aucun cas les actes de son mari.
Oui, ni regret, ni contrition, bien au contraire, car dans la nébuleuse islamiste, Dorothée Klein n'est pas la première venue. Tout juste sortie de Barouze, au milieu d'une cohorte d'épouses de djihadistes fuyant les bombardements et les combats, elle accorde ses interviews à la presse, trônant en majesté sur une couverture, quand autour d'elle, des dizaines de femmes au voile couvert de poussière s'assoient à même le sol avec leurs enfants faméliques. Le prestige de son mari et celui de son beau-frère, qui compte parmi les Français les plus haut placés dans l'appareil de propagande de l'État islamique, donne à Dorothée Klein ce statut particulier et à aucun moment elle ne prendra la moindre distance avec leurs engagements, cherchant encore à justifier les attentats de Paris.
On a voulu diaboliser l'État islamique, mais c'est faux. On veut faire croire aux Français, aux citoyens que ces attentats, c'est faux. Et c'est comme vous, par exemple, si on s'en prend à votre famille, vous voudriez faire justice. Et voilà, bah c'est triste, la justice a voulu être faite. Je dis juste que voilà, dans des guerres, il y a des innocents. Mais est-ce que vous croyez que c'est équitable entre les attentats ? Le bilan, oui, je sais qu'il est lourd, mais pas aussi lourd qu'ici. Est-ce que ça vaut tout ça ? Parce que là, c'est le monde entier, qui est contre nous, qui nous massacre.
L'asservissement des femmes yézidis, la crucifixion des chrétiens, les décapitations de Kurdes, les massacres de chiites en Syrie comme en Irak, tout cela la laisse parfaitement indifférente. Seule la navre, le naufrage du califat de Daesh, dont le tout dernier réduit est en train de s'écrouler sous ses yeux.
Didier François, envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie.
Voilà, c'est totalement édifiant. C'est un document que vous retrouverez bien sûr sur notre site europe1.fr. On termine ce journal, Sébastien, au cinéma avec Fabrice Lucchini à l'affiche aux côtés de Camille Cotin.
À l'affiche du mystère Henri Pic qui sort aujourd'hui, film adapté du best-seller de David Funkinos, déjà vendu à 450 exemplaires, et bien l'ouvrage retrouve à l'occasion de cette sortie cinéma une nouvelle jeunesse en librairie. Nicolas Caro.
Les éditeurs ne sont pas idiots. Lorsqu'un livre est adapté au cinéma, il s'agit de ne pas laisser passer l'occasion. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, la couverture est remplacée par l'affiche du film. Donc le livre est mis en valeur comme une nouveauté et donc il redécolle. Selon David Fuenkinos, ce n'est pas systématique, mais pour le mystère Henri Pic, c'est déjà bien parti.
Et là, le mystère Henri Pic, on est en grande tournée depuis 2 mois. Je sens que voilà, le livre est re-rentré dans les meilleures ventes 2 ans après sa sortie.
Et les libraires anticipent chez Stanislas Rigaud à Paris. On a prévu le coup.
Systématiquement, ça redécolle. Après, il y a forcément une question d'amplitude, succès et qualité du film. Le mystère d'Henri Pic, qui avait donc déjà fait sa vie, redémarre là. Et par exemple, à la librairie, là, on pense qu'une bonne centaine est tout à fait envisageable, supplémentaire. Donc, c'est quand même des chiffres qui ne sont pas anodins.
Et pas la peine d'attendre la sortie du film pour que ça redécolle. Selon un libraire de la FNAC, la seule apparition de Fabrice Lucchini à la télévision pour la promotion a déjà enclenché le redémarrage des ventes. À l'échelle nationale, 50 000 exemplaires sont remis en place dans les librairies.
Nicolas Caro, le mystère Henri Pic en librairie donc et au cinéma ce mercredi si vous voulez fuir le foot.
Oh non, surtout
Pierre.
Pas. Surtout pas. Merci, c'était le journal de Sébastien Krebs.
Vos réactions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve.
Il est 8h14, coup d'œil à présent à l'actualité internationale avec Vincent Hervouet, Pierre.
Bonjour Vincent.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Les chefs de service de renseignement de toute l'Europe, 300 maîtres espions réunis à Paris, c'est une première. Emmanuel Macron a planché devant eux et inauguré le collège du renseignement en Europe.
Dans son discours à la Sorbonne, Emmanuel Macron avait annoncé une académie du renseignement. Alors, collège, c'est plus concret. Le côté british s'appelait, parce que les espions deviennent parfois un peu snobs à force d'être snobés par les dirigeants politiques. À quoi ça sert ? C'est un lieu de débat où les professionnels pourront 3 ou 4 fois par an se parler, éventuellement chuchoter. Ce n'est pas un futur service de renseignement européen, ni un centre de formation, il n'y a pas d'échange opérationnel, ça ne dépend pas de Bruxelles, mais ça se passe exclusivement entre Européens. Le reste du monde n'est pas convié aux fêtes du collège. Hier, il y avait donc les représentants, les responsables de 66 services qui ont écouté le président. Il y avait des représentants des 27 États membres et aussi les Britanniques qui ont un pied dedans, un pied dehors, sont des agents doubles. Les Suisses qui gardent les tirelires de tout un chacun. plus la Norvège. La liste des participants est classée secret défense, mais on se doute que les cousins américains la connaissent et savent même ce qu'ils ont dit. Les Russes et les Chinois doivent savoir aussi ce qu'ils ont eu et ce qu'ils ont mangé.
L'Élysée a dit qu'étaient réunis tous ceux qui comptent.
Sûrement, mais est-ce qu'étaient présents ceux sur qui on compte ? Quand on parle de sécurité, la vraie question c'est qui est l'ennemi ? Les fake news forgées par des officines n'ont pas la même dangerosité que les bandes qui rêvent de soumettre l'Europe. Hier, une eurodéputée espagnole a présenté un livre blanc et noir du terrorisme. Elle liste les 753 Européens assassinés chez eux et les 1115 qui ont été tués à l'étranger par des attentats depuis l'an 2000. Elle donne les noms, prénoms, âges et les circonstances. La France est le pays le plus touché. Avec l'Espagne, à 91%, les tueurs sont des djihadistes. Selon nos renseignements, donc, l'Europe existe, elle a un ennemi commun. Mais c'est avec les pays arabes et africains que la France bataille contre l'ennemi djihadiste, sans être trop regardant sur les conditions de détention au Kurdistan, les droits de la défense en Irak ou ceux de l'opposition au Tchad. C'est avec les drones et les satellites, les grandes oreilles américaines, qu'on mène une guerre amère au Sahel. Et c'est avec la coopération des Russes qu'on piste nos ressortissants qui ont basculé du côté obscur. Alors c'est une très bonne idée de fonder un collège à Paris. À la cantine, on devrait quand même priver de dessert les voisins qui ne se sentent guère concernés par ces guerres qu'on mène au loin.
L'édito international avec Vincent Hervouette sur Europe 1. Merci Vincent.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Restez avec nous dans deux minutes, l'interview politique d'Europe 1. Audrey Crespo-Mara, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Votre invité ce matin.
Eh bien après 18 mois de discussion, l'Europe ne créera pas de taxes sur les géants du numérique. Alors, il présentera une taxe française tout à l'heure en Conseil des ministres. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h17, bon réveil sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Europe 1. Il est 8h18, Pierre de Villeneuve.
Votre invité, Audrey Crespo-Mara, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire.
Bonjour Bruno Le Maire.
Bonjour Audrey Crespo-Mara.
Tout à l'heure en Conseil des ministres, vous allez présenter un projet de loi qui vise à taxer les géants du numérique sur leur chiffre d'affaires réalisé en France. Ça va rapporter 500 millions de recettes supplémentaires. Si on compare à la suppression de l'ISF qui a fait perdre 3 milliards à l'État en 2018, c'est une mesure symbolique ?
Non, c'est une mesure forte qui, je crois, est attendue par les Français, qui vise à rétablir de la justice fiscale, de l'efficacité fiscale et à construire la fiscalité du 21e siècle.
Et 500 millions
au 21e siècle, une taxation de l'économie qui est la même qu'au 20e siècle, alors que chacun sait que ce sont les données, c'est l'immatériel, c'est le digital qui crée aujourd'hui le plus de valeur. Il est normal, il est légitime qu'il soit aussi taxé.
500 millions, c'est peu.
C'est un point de départ. Après, nous verrons progressivement, parce que cette taxe, nous la faisons au niveau national. J'ai bon espoir qu'ensuite, ça devienne une taxe internationale et que tous les pays développés se rallient à cette idée.
Eh oui, à propos de symboles, les autres pays européens ne sont pas tous d'accord pour taxer les géants du numérique. C'est symbolique de la faiblesse de l'Union européenne ?
Quand on a ouvert cette voie avec le président de la République il y a 2 ans, c'était dans le projet du président de la République, nous avons dit « il faut une taxation des géants du numérique ». Qui aujourd'hui paye, c'est la Commission européenne qui le dit, 14 points d'impôt de moins que n'importe quel PME en France. C'est totalement inacceptable. Nous étions seuls. Progressivement, nous sommes devenus 5, avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France évidemment, qui était là au premier rang. Et puis maintenant, nous sommes 23 sur 27. Il reste 4 États qui bloquent, dont acte. Nous allons adopter cette taxe nationale, mais ce n'est que le début du combat. Moi, je souhaite que la semaine prochaine, lorsque nous nous réunirons avec les ministres des Finances, puisque nous n'avons pas d'accord pour adopter une directive européenne, nous ayons au moins une position commune à défendre à l'OCDE pour que d'ici la fin de l'année 2019, ces taxes nationales que adopte la France, mais aussi la Grande-Bretagne, l'Italie ou l'Autriche, deviennent une vraie fiscalité internationale sur le digital.
Mais vous avez beaucoup discuté pendant 18 mois et finalement, aucune décision commune. C'est le message envoyé par l'Europe à 2 mois des élections européennes.
Je regrette que l'Europe n'ait pas le courage de définir ce que doit être la fiscalité du 21e siècle. Je regrette que 4 États aient décidé de bloquer cette taxation. Oui. Mais quelle conclusion j'en tire ? La première, c'est qu'il faut passer de la règle de l'unanimité en matière fiscale à la règle de la majorité qualifiée. Si aujourd'hui nous avions la majorité qualifiée sur les décisions fiscales, cette taxation des géants du numérique serait adoptée par l'immense majorité des pays européens, les 23 sur 27 qui sont d'accord. La deuxième conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut poursuivre le combat pour que, à l'OCDE, nous ayons une taxation adoptée par tous les pays développés. Il y a de ce point de vue-là un changement majeur qu'il faut noter, c'est que le secrétaire américain au Trésor, le ministre des Finances américain, qui est venu à Paris la semaine dernière, que j'ai rencontré, qui a rencontré le président de la République, pour la première fois dit ouvertement, les États-Unis sont favorables à une taxation du digital au niveau de l'OCDE. Donc nous avons décidé avec mon homologue américain Steven Mnuchin de travailler étroitement ensemble pour définir cette taxation au niveau de l'OCDE.
Alors,
et dès que nous
Bruno
aurons une taxation internationale, elle se substituera à cette taxe nationale.
Google, Apple, Facebook ont leur siège social en Irlande, ce qui leur permet de payer moins d'impôts. Est-ce que vous ne trouvez pas anormal que l'Irlande, qui est membre de l'Union européenne, fasse du dumping fiscal pour attirer les multinationales ?
Je suis totalement opposé au dumping fiscal.
Au sein de l'Union ?
Je pense au sein de l'Union européenne. Je pense que ça nous affaiblit tous. Je pense qu'il faut bien une fiscalité pour payer nos crèches, nos hôpitaux, nos services publics. Et donc le deuxième point de cette fiscalité du 21e siècle que nous souhaitons bâtir, le premier c'est cette taxation des géants du numérique, question de justice, question d'efficacité. Mais le deuxième point sur lequel je vais aussi me battre avec beaucoup de détermination, c'est une taxation minimale pour l'impôt sur les sociétés, pour qu'il n'y ait plus cette évasion fiscale. Ces grandes multinationales qui font des bénéfices en France, avec le consommateur français, avec vos données, Audrey Crespo-Mara, avec les millions de données de vos auditeurs, et qui ensuite, une fois qu'elles ont fait des bénéfices avec ces consommateurs français, les rapatrient dans un paradis fiscal pour éviter l'impôt en France. C'est totalement inacceptable. Donc cette taxation minimale à l'impôt sur les sociétés, c'est la priorité numéro 1 du G7 français, dont nous avons la présidence. Et là encore, bonne nouvelle, les États-Unis viennent d'annoncer qu'ils étaient favorables aussi à une taxation minimale de l'impôt sur les sociétés.
Alors, la moitié des géants du numérique visés par votre taxe sont des entreprises américaines, justement. Vous ne craignez pas que Donald Trump prenne des mesures de rétorsion et taxe les produits français, le vin par exemple ?
C'est un argument que j'ai beaucoup entendu de la part des pays européens. Mais je leur ai répondu très souvent, n'ayez pas peur de votre ombre.
N'ayez pas peur de Donald Trump.
Non, n'ayez pas peur de votre ombre.
Et de ses réactions.
Affirmez votre puissance. Nous sommes le continent économiquement le plus puissant aujourd'hui. Nous sommes le premier marché de consommateurs au monde. Les Google, Facebook, Amazon, qui sont de très belles entreprises, qui ont remarquablement réussi, qui créent d'ailleurs des emplois en France et qui sont les bienvenus en France, ont besoin des consommateurs européens qui représentent une véritable richesse avec leurs données, avec leur savoir-faire. Affirmons notre puissance. N'ayons pas peur ni des États-Unis ni de la Chine. Mais on pourra affirmer cette puissance du marché européen, des consommateurs européens, avec d'autant plus de force qu'on sera rassemblés et pas divisés.
Bruno Le Maire, votre ancien collègue Nicolas Hulot et le patron de la CFDT, Laurent Berger, ont publié hier 66 propositions qui visent à concilier transition écologique et progrès social. Selon eux, il y a nécessité à relancer la taxe carbone, à condition que l'argent qu'elle rapporte ne soit pas versé au budget de l'État, mais affecté à un but social. Vous êtes prêt à soutenir cette proposition ?
Je suis très réservé sur toute augmentation d'impôts, chacun le sait, et je crois que l'urgence, c'est de baisser les impôts des Français. Cela étant, je veux saluer la contribution de Laurent Berger et de Nicolas Hulot, parce que je trouve que c'est une contribution utile au grand débat national. Il y a plein de propositions, par exemple sur la refondation du capitalisme, qui rejoignent certaines propositions sur lesquelles nous sommes en train de travailler à l'Assemblée nationale avec le projet de loi Pacte.
Et pas seulement.
L'idée d'ouvrir le conseil d'administration aux salariés,
pas
de donner
seulement. Nicolas Hulot,
une raison d'être aux entreprises
Nicolas
pour qu'elles
Hulot
affirment leur ambition écologique et environnementale. Tout
Nicolas
ça, j'y
Hulot
suis favorable
estime qu'il ne faut
et
plus
nous le faisons.
Qu'il ne faut pas respecter forcément les critères de Maastricht qui imposent que le déficit ne dépasse pas les 3% du PIB. Est-ce que la survie de la
non,
planète
là-dessus,
passe
sur tout ce qui
avant
est,
la rigueur budgétaire ?
Sur tout ce qui est refondation du capitalisme, affirmation de l'objet social de l'entreprise, place des salariés dans l'entreprise. Là, je rejoins Laurent Berger et Nicolas Hulot. En revanche, cette idée qu'il faudrait augmenter les impôts ou redistribuer davantage, alors que nous avons déjà un système très redistributif, là je suis beaucoup plus sceptique, parce que je considère que le premier problème économique français, ça n'est pas la redistribution, c'est la création de richesses. Si nous voulons que ça aille mieux pour nous, pour nos enfants, pour les générations qui viennent, il faut que la France, que nos PME, que nos entreprises créent plus de richesses. Pour moi, c'est ça la priorité absolue. Et je pense qu'on peut avoir un très beau débat sur ce sujet. Moi, j'affirme que la création de richesses, c'est aujourd'hui la priorité absolue pour notre économie.
Alors, Laurent Berger estime qu'on pourrait créer une tranche d'impôts supplémentaires pour les plus hauts revenus afin de financer la transition écologique, que les riches doivent payer plus pour sauver la planète ou pour améliorer la justice sociale.
Oui, je me méfie toujours de cette expression « les riches, les plus riches, les 20% les plus riches ». Je rappelle que les 20% les plus riches en France, ça commence à 2500 euros de revenus.
Vous n'envisagez pas de tranche d'impôts supplémentaires ?
Augmenter les impôts de 20% des Français qui touchent 2500 euros par mois, moi j'y suis totalement opposé.
Pas de tranche d'impôts supplémentaires donc, en vue.
Je considère qu'il faut baisser les impôts des Français. Pour cela, baisser la dépense publique. Et j'en reste à cette ligne forte qui est celle du gouvernement depuis 2 ans. Nous avons commencé à baisser les impôts des Français. Nous avons commencé à baisser les impôts des entreprises pour qu'elles créent plus de richesses. Regardons où nous acceptons tous ensemble de réduire la dépense publique pour redonner l'argent aux Français et baisser leurs taxes et baisser leurs impôts. C'est la ligne que je continuerai à défendre.
Bruno Le Maire, Carlos Ghosn va sortir de prison aujourd'hui. À l'annonce de sa libération, il a remercié un certain nombre de personnes qui lui ont apporté un soutien. Mais dans cette liste, il n'a pas cité le gouvernement français. Faut-il en déduire que vous l'avez abandonné ?
Mais nous n'abandonnons personne, mais le rôle du gouvernement n'est pas de s'immiscer dans une procédure judiciaire en cours.
Mais c'est un citoyen
Carlos
français.
Carlos Ghosn est libéré. Il est citoyen français, il va pouvoir se défendre et se défendre beaucoup plus sereinement. Tant mieux. Et je dis ce matin, tant mieux. Mais ma responsabilité de ministre de l'économie et des finances, c'est surtout de m'assurer que les centaines de milliers d'emplois de Renault, de l'alliance entre Renault et Nissan, sont protégés. Dans un moment où l'industrie automobile est confrontée à un des bouleversements les plus importants depuis le début du XXe siècle. Ça fait plus d'un siècle que l'industrie automobile n'avait pas été confrontée à des transformations aussi importantes. Ma responsabilité, c'est de m'assurer que Renault réussit dans ce nouvel environnement. C'est ça ma priorité.
Merci Bruno Le Maire.
Merci Audrey Casfoumara.
Monsieur le ministre, un pronostic pour PSG Manchester ce soir, vous allez suivre le match ?
Alors je serai malheureusement en commission à l'Assemblée nationale, donc j'aurai du mal à suivre le match, sauf à ouvrir mon iPhone pendant la commission, ce qui ne se fait pas, mais victoire PSG.
Victoire PSG sur Europe 1, merci beaucoup Bruno Le Maire, merci Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique de la matinale.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Dans un instant, la météo de Laurent Cabrol, puis 8h30 et l'essentiel de l'information et la colère de l'administration pénitentiaire après l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe. Nous serons en direct devant la prison de Fleury-Mérogis. Et puis, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, qui se prépare au grand match ce soir face à Manchester United. À tout de suite.
Excellente matinée sur Europe 1 avec Pierre de Villeneuve. Il est 8h28. Dans la prochaine demi-heure, Pierre.
Mathieu Charrier est là, il a lu toute la presse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez retenu, Mathieu ?
Les femmes victimes de violences, alors qu'enfin une héroïne Marvel débarque aujourd'hui au cinéma.
Et puis à 8h40, Mister Canteloup est là pour son best-of.
Mais tout de suite, c'est la météo avec Laurent Cabrol, Pierre.
Alors Laurent, racontez-moi. Vous m'avez donné la chanson de Paulette, la chanson de d'Yves Montand, bien sûr, mais au-delà de ça,
la référence au petit billet tout à l'heure, j'en suis malade, parce que quand j'ai dit Paulette, vous avez ouvert les yeux avec des grandes.
Ah oui, non, en disant, en même temps.
Qu'est-ce qu'elle vient faire Paulette là-dedans?
Voilà.
Et Paulette,
la
reine de la bicyclette.
La bicyclette, voilà.
Alors, non, simplement, je voulais rappeler
c'est
à nos amis.
Pas un temps à faire du vélo. Non mais c'est vrai.
Que le mauvais temps est là, que le mauvais temps est là depuis maintenant presque une semaine, et il le sera toute la semaine, il sera la semaine prochaine, on ira jusqu'au 14-15, peut-être même au-delà, pour l'instant je ne me prononce pas, mais ce que je vous ai dit au début du mois, je le maintiens, et que ce mauvais temps, c'est un temps tout à fait de saison, il ne faut pas exagérer non plus, ce sont des giboulées, des pluies, alors aujourd'hui il y en aura un petit peu partout en France, il y en a beaucoup sur le littoral de la Manche en ce moment, elles vont descendre sur la région parisienne, c'est presque fait, elles vont envahir pratiquement tout le pays, avec à la clé, dans le pourtour méditerranéen, un coup de vent assez important avec ces vents marins, avec ce vent d'OTAN qui vont souffler dans le golfe du Lion et qui vont donner donc des rafales qui pourraient atteindre les 90 km/h. Donc il fera mauvais pour nous tous, on s'abrite, on prend son parapluie, mais attention parce qu'il peut s'envoler avec le vent, et de toute manière vous aurez une journée assez difficile. Les températures sont douces, c'est le seul réconfort que je vous propose aujourd'hui, 14 à Deauville jusqu'à 22 à Saint-Giron en raison de l'effet de fun, je vous en ai parlé, c'est la météo de la pompe à bicyclette, 18 à Bourges, 19 à Biarritz et 20 degrés à Toulouse, ce sont que quelques valeurs, mais il fera presque doux.
Merci Laurent, à tout à l'heure, juste avant 9h.
7h-9h, 2h d'info sur Europe 1.
Mercredi 6 mars, toute l'actualité à 8h30 avec vous Pierre Devineau.
Et les surveillants de dizaines de prisons mobilisés ce matin, on apprend à l'instant que la prison de Condé-sur-Sarthe est entièrement bloquée par des surveillances. C'est justement dans cet établissement qu'a eu lieu l'attaque au couteau hier par un détenu radicalisé. Chanel Petit, vous êtes vous en direct devant la prison de Fleury-Mérogis où une centaine de salariés sont rassemblés.
Oui, et cette centaine de personnes bloquent toujours l'entrée de la maison d'arrêt. Alors ça se passe plutôt dans le calme. Il y a seulement eu une petite altercation il y a quelques minutes. Trois gardiens ont forcé le barrage pour prendre leur poste. Ils ont finalement pu rentrer, mais sous les huées de leurs collègues qui ont ensuite scandé « Belloubé, démission ». Le reste du personnel pénitentiaire non gréviste attend toujours à la sortie du parking, sans grand espoir de pouvoir travailler ce matin. Blocage donc presque total depuis 5h ce matin à l'appel des syndicats pénitentiaires FO et CGT. Des syndicats qui dénoncent une insécurité grandissante, la multiplication des agressions couplée à un manque de moyens. On nous dit ici que ce blocage pourrait durer jusqu'à la fin de la matinée.
Chanel Petit en direct de Fleury-Mérogis pour Europe 1 concernant l'enquête de l'agression de la prison de Condé-sur-Sarthe. Trois personnes sont en garde à vue. Les deux surveillants blessés sont hors de danger. L'un d'eux a été opéré. L'assaillant, un détenu radicalisé de 27 ans, est hospitalisé, a été blessé dans l'assaut du raid. Sa compagne, a été tuée. À Grenoble, une marche blanche aura lieu dans le quartier Mistral en soutien aux familles aujourd'hui à 16h. Samedi, deux jeunes sont morts à scooter alors qu'ils tentaient d'échapper à la police. Carlos Ghosn, sur le point d'être libéré au Japon, la caution de presque 8 millions d'euros a été versée. L'ancien patron de Renault-Nissan est accusé de malversation financière. Il est détenu depuis plus de 3 mois dans une prison de Tokyo. La proposition de loi contre les baffes, les gifles, les fessées aux enfants arrive au Sénat aujourd'hui. Fin novembre, l'Assemblée avait adopté en première lecture cette proposition de loi Modem visant à interdire les violences éducatives ordinaires à l'encontre des enfants. Pour Gilles Lazimi, médecin généraliste à Romainville, ce vote au Sénat est une étape indispensable pour l'adoption future d'une loi.
La symbolique, elle est importante parce qu'elle va diminuer la tolérance de la société. Elle va amener les gens à intervenir dans la rue, dans les supermarchés, à l'école. On pourra dire clairement aux parents que ce sont des mauvaises méthodes. Frapper un enfant, ça lui apprend la violence, ça le rend moins empathique. Frapper un enfant, ça peut empêcher ses apprentissages, lui donner des échecs scolaires, baisser son QI, augmenter les addictions, augmenter des troubles de la délinquance. Ça amène bien sûr à des cas de maltraitance pour 10% de la population. Pourquoi continuer à utiliser des méthodes qui sont dangereuses potentiellement? C'est pour ça qu'il faut une loi. Ce qui fait la société, c'est des lois qui protègent les plus faibles, et cette loi protégera les plus faibles.
Gilles Lazimi avec Bastien Munch pour Europe 1. Le PSG en position de force ce soir en 8e de finale, retour de la Ligue des Champions face à Manchester United. Les Parisiens ont gagné à l'aller 2-0. Retour donc ce soir au Parc des Princes avec un Thomas Tuchel très confiant.
Le scénario idéal est que nous montrons notre qualité et nous jouons confiants, calmes, tranquilles et à même côté agressifs et comme une équipe. C'est la clé pour moi. On a confiance, mais pas trop de confiance. Nous sommes attentifs, mais nous ne jouons pas avec peur. Nous avons confiance à notre qualité.
Le entraîneur de Paris au micro Europe 1 de Julien Froment. Rencontre à suivre en direct, bien sûr, sur Europe 1, émission spéciale de 20h à 23h. En public d'ailleurs, au studio Belmar, ici à Europe 1 avec Lionel Rousseau. Courez vite sur notre site internet europe1.fr, sur le club Europe 1. Il doit rester quelques places.
Europe 1. Pierre de Villeneuve, on retrouve tout de suite Mathieu Charrier pour la revue de presse.
Et ce sont donc les femmes qui sont à la une de beaucoup de vos quotidiens ce matin, Mathieu.
À commencer par les femmes victimes de violences physiques. On lira dans Nice Matin le cri d'alarme du procureur de la République. Il parle d'un niveau exceptionnel de violence dans le département. 7 femmes y sont mortes l'an dernier sous les coups de leur mari. Une violence qui s'incarne aussi en une du journal L'Alsace, avec le témoignage anonyme d'une victime de son ex-mari. Elle est en photo, de dos, pleine page, assise dans un escalier, et elle raconte ses souffrances, sa honte. Cette nuit où elle a carrément perdu connaissance sous les coups, elle parle de manipulation psychologique et rappelle ce conseil qu'on doit marteler: au premier coup, il faut partir. Il y a le cas de Julie aussi, tuée par balle dimanche en Corse par son ex-conjoint, sur lequel vos journaux reviennent. Et puis il y a aussi ces jeunes communistes victimes de violences sexuelles au sein de leur parti et qui témoignent dans le journal L'Humanité. Le quotidien consacre 5 pages avec cette citation en une: « Nous ne nous tairons plus jamais ». Et Jean-Manuel Ducoing d'Y aller dans son édito: « Nous publions les témoignages de jeunes femmes communistes déclarant avoir subi des violences sexuelles imputées
à des camarades. La phrase en elle-même s'avère insupportable. Alors il y a Mathilde qui raconte à visage découvert cette soirée d'anniversaire d'une camarade justement où cet homme l'a violée. Quelques temps plus tard, il installait lui-même la banderole à l'entrée de l'université du parti avec ce slogan « Notre équipe de choc prête à vous accueillir ». Et comme souvent, il y a le silence très lourd des instances et des dirigeants lorsque les victimes tentent d'alerter. Le PCF qui a réagi à travers un texte publié avant-hier « Tolérance zéro », peut-on y lire ? Le sexisme n'est pas le domaine réservé des réactionnaires, complète la philosophe Manon Garcia. Mais il n'y a pas que les violences physiques envers les femmes, il y a aussi les violences morales.
Et notamment les pensions alimentaires impayées, c'est la une du journal Libération.
L'autre violence faite aux femmes, et ce jeu de mots qu'on peut lire en page 2, mère seule, pensions à elle. Il faut savoir qu'en France, un tiers des parents solos, pour la majorité des femmes, vivent sous le seuil de pauvreté. Le think tank Terra Nova propose donc, dans une note publiée aujourd'hui, de mieux lutter contre les impayés en créant, par exemple, une agence gouvernementale qui serait chargée de recouvrer ces sommes auprès du père défaillant. Le Québec l'a mise en place depuis plus de 20 ans. Ces mères seules, on les a réentendues à l'aune de la crise des Gilets jaunes. Elles étaient sur les ronds-points, elles aussi, pour clamer leur colère et réclamer de l'aide, écrit Alexandra Schwarzbrod dans son édito. Et là encore, des femmes témoignent. Priscilla, 33 ans, il m'est arrivé de devoir faire appel à l'aide alimentaire. Florence, 38 ans, il avait fait exprès de ne déclarer aucun revenu. Ou encore Nathalie, 46 ans, son ex-conjoint a été condamné pour abandon de famille. Car justement, ce délit d'abandon de famille, il existe. Il est passible de 2 ans de prison et 15 000 euros d'amende. Mais beaucoup de plaintes sont classées sans suite. Et le Parisien aujourd'hui en France de lister les conseils. Que faire en cas d'impayé ? Il faut d'abord atteindre l'égalité professionnelle, conclut dans Libération Yvette Roudy, première ministre des droits des femmes. C'était en 1981 dans le gouvernement Mauroy.
Et bien justement, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, appelle les entreprises à l'action.
C'est à lire dans Les Échos, ministre du Travail qui a adressé hier le premier bilan de l'index de l'égalité homme-femme. Les entreprises de plus de 1000 salariés devaient répondre à un questionnaire. Premier point. Seule une sur deux l'a fait et les résultats ne sont pas glorieux. Si les écarts de salaire persistent, ils ne seraient pas si criants. En revanche, c'est la cata concernant le plafond de verre. Ce phénomène, vous savez, qui bloque l'avancée des femmes dans leur carrière en raison, par exemple, du congé maternité. Une grande entreprise sur quatre n'a pas accordé de rattrapage salarial aux femmes de retour de congé maternité, alors que la loi pourtant les y oblige depuis 2006. Parmi les bons élèves qui ont répondu à ce questionnaire, le Figaro Économie cite Sodebo, la Maïf ou CNP Assurance. À l'opposé, les mauvais élèves, Renault, Thalès, Engie et Safran. « Je veux en finir avec les incantations, je veux des résultats », a martelé hier Muriel Pénicaud. Les politiques qui, au passage, devraient peut-être balayer devant leur porte, car il y a ce chiffre, en bref, dans Libération, les femmes ne représentent qu'un quart des parlementaires dans le monde.
On va parler maintenant de football féminin.
Et oui, car dans 3 mois s'ouvrira en France la Coupe du Monde de foot féminin, et notre équipe fait partie des favoris. Les voyants sont au vert pour les bleus, mais, c'est-à-dire dans la croix, nos bleus avec un E donc, qui ont battu l'Uruguay en match amical lundi soir, 6-0, mais qui ont perdu fin février contre l'Allemagne. Et déjà une bonne nouvelle, en tout cas, près de la moitié des billets dans les stades ont été vendus. Les 600 000 restants seront, notez-le, mis en vente demain à 15h, et c'est beaucoup moins cher que pour les hommes, entre 9 et 87 euros pour assister à la grande finale le 7 juillet prochain.
Enfin, il y a désormais une super-héroïne dans l'univers Marvel.
Marvel, vous savez, c'est notamment Iron Man, Hulk, Captain America, oui. Les Avengers, qui doivent donc désormais partager leur costume avec Captain Marvel. Enfin, une super-héroïne chez Marvel, titre West of
Captain
France.
Captain E, alors, non ?
Captain E, mais comme c'est de l'anglais,
oui.
On ne met pas le
E. Bah non.
Il aura fallu attendre le 21e film de la firme pour qu'une femme prenne le pouvoir. C'est Brie Larson qui l'incarne. On pourrait jouer les cyniques et dire que le film tombe à pic dans l'affaire MeToo, écrit Libération. Mais Captain Marvel s'en sort en vérité plutôt bien. Le film va dire aux jeunes filles « Vous êtes toutes des super-héroïnes », témoigne une des actrices dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et c'est, figurez-vous, Disney qui distribue ce film. On est loin des princesses, comme quoi la société évolue. Lentement, mais elle évolue.
Elle évolue, et vous aussi, Mathieu Charrier, avec votre revue de presse remarquable. Merci Mathieu.
À demain.
Pierre de Villeneuve sur Europe 1.
Il arrive dans une poignée de secondes, c'est l'inimitable Nicolas Cantelot.
A tout de suite sur Europe 1, avec Pierre de Villeneuve, il est 8h41. Votre matinale avec Pierre de Villeneuve.
Et l'actualité en direct, on apprend à l'instant que Carlos Ghosn vient de quitter la prison de Tokyo au Japon après plus de 100 jours de détention.
Europe 1, il est 8h43.
C'est l'heure du grand show. Voici Nicolas Canteloup et Julie.
C'est presque du direct. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of.
Le gouvernement.
gouvernement a annoncé que les préservatifs allaient désormais être remboursés par la Sécurité sociale. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour.
Oui, bonjour madame.
J'attendais Strauss-Kahn, mais pardonnez-moi.
Il arrive.
Pardon. Soyez patient. Il faut des préliminaires, monsieur Aliagas. Ah,
excusez-moi, monsieur le ministre.
Oui, désormais, les préservatifs seront remboursés. Et sur ce point, il n'y a pas de débat. Monsieur Aliagas, pour avoir droit au remboursement, c'est très simple. Il vous suffira de vous rendre à la Sécurité sociale avec votre vieux préservatif et on vous en donnera un neuf.
Oh non, arrêtez.
Tout un programme.
C'est du concret en tout cas. C'est des réponses concrètes. C'est une réponse à la colère des Gilets jaunes sous le pouvoir d'achat.
Oui, sur le pouvoir d'achat. Bah, c'est petit comme coup de pouce financier. Hein. Puis
non,
c'est
pas aussi petit que vous l'imaginez. Non, c'est une réponse à la colère des Gilets jaunes. Parce qu'en leur donnant des préservatifs gratuits, au moins on évite qu'ils se reproduisent. Et moins il y a de Gilets jaunes, mieux on se porte. C'est une mesure de prévention, vous l'avez compris.
Ah, d'accord.
Bonjour.
Hello, Nikos. Le voilà, Nikos.
Welcome.
Bonjour. Je veux dire rebonjour à M. Aliagas avec qui j'étais hier soir.
Non, c'est pas vrai.
Racontez, Nikos.
J'aime quand il se justifie. C'est Dominique Romantique. Bonjour à tous.
Bonjour.
Écoutez. C'est une magnifique initiative, ce remboursement des préservatifs. Mm. Au quotidien, vous savez, au quotidien, ça pèse très lourd sur un budget. Je vois, à titre personnel, dans le panier à la ménagère, c'est très lourd.
Voilà.
J'étais à deux doigts d'enfiler d'ailleurs un gilet jaune.
Oh là là.
Ça aurait été le comble.
Le comble, pourquoi?
Parce que j'ai plus de propension à enlever mes vêtements qu'à en porter de nouveaux. C'est vrai que ça va trop loin.
Bon, merci. Merci, messieurs, hein, monsieur
soir,
le maire.
À ce soir,
je vous en prie.
Après être longtemps resté très en retrait, le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a enfin fait un mea culpa. Monsieur Gaudin, vous êtes en duplex de Marseille. Dans quel état d'esprit êtes-vous?
Ah, je suis comme mes immeubles. Je suis effondré, madame Julehy, monsieur de Villeneau.
Il ne vient pas un petit peu tard, ce mea culpa, là. Un rapport de 2015 faisait état de 40 000 logements indignes à Marseille, menaçant la sécurité de 100 000 habitants. Mais... Marseille compte 800 000 habitants. Ça veut dire qu'un Marseillais sur 8 est en danger, monsieur Gaudin.
Écoutez, ces chiffres sont totalement faux, madame Leclerc. Archi-faux. Enfin, soyons sérieux un instant. Un Marseillais sur 8 en danger, mais c'est beaucoup plus. Avec les immeubles. Mais bien sûr, alors. Avec les immeubles qui s'écroulent, les kalachnikovs en vente libre, les trafics de drogue, les mafias, les rivalités de gangs, c'est pas un Marseillais sur 8 qui est en danger. C'est 12 Marseillais sur 8 qui risquent la mort chaque jour, je vous l'affirme.
Vous nous avez bien rassurés, là.
Et encore, je ne vous ai pas parlé de la salmonelle dans nos poissons et du gasoil dans nos fruits de mer.
Encore plus rassurant. Allez, merci, monsieur
Bienvenue
Gaudin.
Bienvenue à Marseille.
Ah oui, c'est ça, oui. À bientôt. Le mathématicien Cédric Villani brigue à son tour la mairie de Paris en 2020. Marcel Campion, bonjour.
Oui.
Alors, vous aussi, vous êtes candidat. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de Cédric Villani?
Oh mais franchement, il suffit de voir comment s'habille ce monsieur pour comprendre qu'il y a de grandes chances pour que ce soit une grosse star.
Oh, non,
je sais que je n'ai pas le droit de dire ça. Donc, comment vous appelez déjà un homme qui a eu un homme là?
Un homosexuel. Hein.
Voilà. Bah, je ne vais pas vous faire un dessin, vous avez compris ce que je pense de cette madame Villani.
Oh, écoutez, madame Villani. Bon, d'accord. Face à vous, il y aura également Anne Hidalgo. Hein.
Oui, ah bah, ça, bien sûr, Anne Hidalgo, hein, qui était là. Il faut le rappeler, la première assistante de Bertrand Delanoë, hein, qui était vous, comment vous appelez ça déjà?
Oh, écoutez, un homosexuel.
Voilà, vous ne faites pas un dessin, donc hein, vous avez compris ce que je pense de cet espingouine. Hein.
Oh, écoutez, puis il y aura aussi sûrement dans la course à la mairie Moudir Majoubi et Bruno Julliard.
Ah, ben les deux là, c'est pire que tout. Oh, ils ont déjà avoué leur maladie.
Leur maladie, mais quelle maladie?
Ah, le mot que vous avez dit là, j'ai pas le droit de dire.
Une maladie, enfin.
Oui, bon, écoutez, mon slogan, il est simple. En 2020, votez hétérosexuel, votez Marcel.
Eh ben, ça promet la campagne. Hein. Merci Marcel Campion. Emmanuel Macron a organisé un dîner à l'Élysée mardi soir en vue d'établir une stratégie pour les européennes. Étaient présents notamment François Bayrou, Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé, le maire de Bordeaux, qui est avec nous.
Oui, bonjour Mme Julie, bonjour à votre sympathique équipe.
Alors, Monsieur Juppé, pourquoi Emmanuel Macron voulait vous voir? Pour vous confier une liste aux européennes ou quoi?
Non, pas du tout. Ah pas bon. Pour une liste aux européennes. Non. Bien loin de lui, cette idée. Non, il voulait me voir en tant que branlologue.
En tant que branlologue?
Oui, expert en branlée. Oui, vous savez, il est pas fou, il sent bien que ça chauffe, que c'est pas le parti. Alors il demande quelques conseils au vieux sage, un spécialiste de la vautrade, une valeur sûre de l'échec. Il veut savoir comment ça se fait, comment on appréhende une rouste, comment on digère une avoinée. Voilà, donc au niveau loser, entre Bérou et moi, il était bien entouré. Les boss de l'échec en politique, les kings du fiasco électoral, non, ils ne pouvaient pas être mieux conseillés, je crois.
Eh bien, merci, monsieur Juppé. On en vient à l'association L214 qui a diffusé des images insoutenables d'un abattoir d'Indre-et-Loire où les animaux étaient découpés vivants. La fermeture de ce lieu a été ordonnée immédiatement. On va essayer de comprendre cette affaire en appelant un autre abattoir.
Ouais, abattoir de l'écarisseur joyeux Jean-Pierre Tronçonneuse à haute écoute. Attendez, une seconde. Pascal, t'as réparé la broyeuse à mouton, là? Ouais, mais qu'est-ce que tu fous? J'ai 200 moutons, là, qui attendent. Ouais, mais hier, on s'en est sorti avec le pistolet à clous, mais aujourd'hui, j'ai plus de clous. Tu t'actives, parce que moi, je suis dans la merde, là. Un instant, deux secondes, il y a quelqu'un. Allô, oui,
oui.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous-même?
Jean-Pierre Tronçonneuse, comment vous réagissez-vous aux images de L214?
Voilà, ça fout en l'air le métier. Franchement, c'est scandaleux. Ça arriverait jamais dans nos abattoirs à nous. On voit, moi j'ai vu les images, ils découpent des vaches vivantes avec des scies électriques dégueulasses. Hein, chez nous, on a des outils nickel. Hein, à l'heure qu'il est, je suis à côté d'un canard, je vais le traiter, mais avec une disqueuse en inox, hein, avec filetage de broche M14, un variateur. Hein. Vous voyez? Voilà, ça c'est du boulot. Elle sent rien. Elle est contente, la bête. Vous voyez, c'est Bosch, du travail de pro, quoi.
Bosch, du travail de pro. Bon, écoutez, c'est barbare, répugnant, je veux dire, faut arrêter.
Non, attendez, vous ne pouvez pas dire des mots comme ça avec votre antenne, même avec des journalistes professionnels. Hein. Moi, je suis fier de mon abattoir, madame. Moi, je me suis équipé, j'ai renouvelé tout l'outillage. Hein. J'ai un désanusseur de poule. Mais c'est facile de dire ouais, mais vous mangez du poulet, que je sache, il y a des. Ouais. 100% acier, hein, madame. J'ai une meuleuse à tête de veau, à 8 vitesses. Hein, c'est le progrès. Comme ça, je peux régler la souffrance du veau sur une échelle de 1 à 8. Mais c'est facile de critiquer. Ma déchiqueteuse à vache, hein, elle est nettoyée à la brosse à dents chaque semaine. Alors qu'ils viennent me filmer les L214 ou 213 ou 215, on verra s'ils trouvent à redire.
Oui, c'est bon, merci, Pascal, Jean-Pierre.
Tu me remets des clous dans le pistolet.
On va revenir maintenant sur cette info un peu folle, hein, Abdelaziz Bouteflika, qui sera candidat au présidentiel de 2019 en Algérie. Michel Simès, vous êtes médecin, est-ce bien raisonnable?
Bonjour Marina. Et oui, je suis candidat, aurait déclaré Abdelaziz Bouteflika, enfin aurait bavouillé Abdelaziz Bouteflika. Pour être précis, il a dit, vu qu'il a fait un AVC, je rappelle, en 2012, donc depuis, Boubou fait des bulles quand il parle, mais faire des bulles, ça ne constitue pas un programme politique.
En tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour nos amis algériens. Hein.
Quelque part si, Marina, on s'est tous demandé un jour, y a-t-il une vie après la mort? Eh bien, la réponse est oui. En tout cas, pour Abdelaziz Bouteflika, il y a une vie politique après la mort. Jean-Michel Apathy vous le confirmera.
Eh bien, merci docteur.
Nicolas Cantelot qui revient demain, bien sûr.
Et vous le retrouvez évidemment quand vous le souhaitez en podcast sur Europe 1.fr.
Dans quelques petites minutes, le tour de la question. Bonjour Wendy Bouchard.
Bonjour Pierre, bonjour à vous tous. Absolument, on vous donne la parole sur deux sujets. Premier sujet d'actualité, on va revenir sur la tribune publiée dans 24 langues hier par Emmanuel Macron, un plaidoyer pour l'Europe. Vous a-t-il convaincu? Un sur la méthode, se remettre aussi en selle sur le plan européen et puis sur les propositions faites en l'espèce. Jean-Dominique Giuliani, qui est président de la Fondation Robert Schuman, et Gaël Sliman viennent décrypter cela avec vous et vous appellent au 39-21. Puis à partir de 10h, on va parler d'un mal dont souffre une femme sur 10, quasiment 6 millions de Françaises. Il s'agit de l'endométriose. Il y en a un certain nombre d'ambassadrices, heureusement, de cette maladie pour permettre d'en parler mieux. Je pense à Laetitia Milo, à Enora Malagré. C'est un mal chronique lié aux règles qui provoque des douleurs extrêmes et parfois des difficultés pour tomber enceinte. On en parle, c'est un sujet de préoccupation majeure pour ces femmes-là. Et on vous donne la parole là encore au standard.
Merci Wendy, à tout à l'heure, 9h pile.
À suivre la météo et puis l'essentiel de la matinale avec vous Pierre Devineau, juste avant 9h sur Europe 1. Il est 8h54, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo, Pierre.
Mais ce n'est pas une, mais deux zones de pluie qui nous attaquent, Laurent.
Oui, elles arrivent concomitamment. L'une arrive par la Manche, l'autre par la Méditerranée. Et elles vont se rejoindre pratiquement au centre de la France, de sorte que on peut dire que tout le monde aura son passage pluvieux aujourd'hui. Avec en Méditerranée, c'est un petit peu plus violent qu'ailleurs, parce que nous avons des vents marins qui sont assez forts. Pour ce qui concerne le Midi-Pyrénées, ce sera disons plutôt calme par rapport aux autres régions. Les températures sont douces, c'est une consolation, 14 à Lille, 15 à Paris, 16 à Tours, 17 à Dijon, Lyon, Clermont-Ferrand et Nancy, à Bourges, Strasbourg, Belfort, Biarritz et Limoges entre 18 et 19, 20 à Toulouse, 21 à Pau et 22 degrés à Saint-Girons en raison de l'effet de feu. Ce sont vraiment des températures extrêmement douces, elles vont baisser, faiblir pratiquement au samedi et dimanche et ensuite nous aurons une prochaine semaine qui ressemblera à celle-là.
Merci Laurent Cabrol.
Mercredi 6 mars, on revient sur les moments forts de cette matinale avec vous Pierre Devineau.
Oui, tout ce qu'il ne fallait pas rater dans la matinale d'Europe 1, on l'a appris il y a moins de 10 minutes après plus de 100 jours de détention. Carlos Ghosn est sorti de prison à Tokyo et pour sortir, Emmanuel Dutheil, il a dû s'acquitter d'une lourde caution de près de 8 millions d'euros.
Oui, et l'image est saisissante ce matin. Après plus de 100 jours de détention, Carlos Ghosn est sorti vêtu d'un blouson, d'une casquette bleue, de lunettes de soleil. Il portait aussi un masque sanitaire blanc. Il était encadré bien évidemment par des gardiens, scruté par des dizaines de caméras et appareils photo. Il s'est engouffré dans une voiture. Avant même sa sortie, dès hier, il se disait infiniment reconnaissant envers sa famille et ses amis. Ses avocats ont tenu à rappeler dès hier qu'il se considérait toujours comme totalement innocent et qu'il était résolument déterminé à se défendre. Bruno Le Maire, ce matin sur Europe 1, le ministre de l'économie a estimé que c'était tant mieux que Carlos Ghosn sorte de prison. Mais attention, l'affaire est très loin d'être terminée. Il ne va pas être libre de ses mouvements. Obligation de résider au Japon, interdiction de quitter le pays, même pour un très très bref séjour. Disposition pour éviter sa fuite et la destruction de preuves, le tout en attendant bien sûr un procès à l'issue très incertaine.
Merci de ces derniers détails Emmanuel Dutheil. Les surveillants, dizaines de prisons mobilisées ce matin, mouvement de solidarité après l'attaque au couteau hier à l'encontre de deux de leurs collègues à Condé-sur-Sarthe par un détenu radicalisé. Un drame qui repose l'épineuse question de la radicalisation en prison. Écoutez à ce sujet l'édito de Jean-Michel Apathy, c'était tout à l'heure à 7h40.
Un acte terroriste en prison, ça défie l'entendement et le bon sens. Michael Chiollo n'a pas 30 ans. Avec ce qui s'est passé hier, il ne sortira jamais de prison. C'est un échec terrible pour la société. La prison ne sert à rien dans ces cas-là. Les radicalistes islamistes, cette année 2019, il y en a à peu près 400 qui vont sortir. Les peines ont été purgées et on ne peut pas les retenir indéfiniment en prison. Alors les pouvoirs publics ont déjà dit oui, mais on va les surveiller particulièrement. Mais ça, c'est du flan. Parce que des individus qui sont libres dans la société, ils sont très difficiles à surveiller. Il faut bien le dire, ce matin, on est un peu démunis.
Et puis, c'est bien sûr un grand soir pour le PSG en face au Parc des Princes. Manchester United, au bout, un ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, sachant que le Real Madrid a lui été éliminé hier soir par l'Ajax Amsterdam. Alain Roche, vainqueur du seul trophée européen avec le PSG, c'était en 1996. Consultant foot d'Europe 1, était avec nous à 7h45. Lui, il veut y croire.
Il faut garder l'humilité à l'image de ce qui s'est passé hier soir avec le Real de Madrid, mais je ne vois pas le Paris Saint-Germain perdre ce soir, sachant que Manchester est totalement décimé aussi.
Décimé,
on peut dire. Ouais. Le PSG est fort et sûr de lui.
Fort et sûr de lui, mais est-ce qu'il est totalement à l'abri avec cette avance de deux buts?
Je le pense, réellement. Ouais. Oui, parce que cette équipe est en pleine confiance. Je ne la vois pas déraper ce soir, en tout cas.
Allez, le PSG, on y croit, nous aussi. Émission à suivre entre 20h et 23h qui sera diffusée depuis le grand studio Belmar d'Europe 1. Merci à tous, merci à toutes les équipes du 7-9. Voici pour la matinale. Je vous laisse en très, très bonne compagnie avec Wendy Bouchard.
Merci, cher Pierre. À demain. Merci de votre fidélité. On vous attend au 39-21 dès maintenant.